Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Bien, j'espère que vous êtes bien installés. On va débriefer bien évidemment toute cette semaine de football hein, avec des hauts et des bas. Quelques bas surtout. On va commencer avec Lucas autour de la table. Comment ça va Lucas ?
Ça va et toi Eladj ?
Ça va, bonne semaine de foot ?
Bonne semaine de foot, belle semaine de foot. Parfois décevante mais je pense qu'en termes de spectacle on a été servi.
Merci Lucas. Alexandre, comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va, super. Toi t'as passé une bonne semaine ?
Bonne semaine, franchement, la LDC, c'était agréable.
Amadou, comment ça va ?
Ouais, Todo, bon, on essaye. Bon, c'était un peu compliqué avec Paris la semaine dernière, mais bon, après, c'est pas perdu encore. Il reste encore une demi-temps.
C'est pas perdu, plus ou moins, mais on peut dire que quand même, hein, ça sent pas très bon pour le match de demain. C'est dès demain. Et on peut dire déjà que voilà. Mais bon, on a pu voir un autre visage du Paris Saint-Germain, bien évidemment, en Ligue 1. Hein. Paris Saint-Germain qui se sont imposés avec un petit turnover quand même.
Gros turnover, oui.
Mais après, les autres sont rentrés à la fin. On a vu les Galactiques, on va dire. Les Galactiques.
Les Galactiques du pays. J'aime ça.
Rentrer à la fin et faciliter la fin de match, avec notamment un doublé d'Ousmane Dembélé, qui est le meilleur buteur. Tout simplement
Europe 2025.
Seul un joueur fait mieux, c'est Cristiano Ronaldo, mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Non mais quand même, faut le dire.
Ça c'est ça.
Non, c'est incroyable ce qu'il fait. Le seul joueur qui a fait mieux, c'est Cristiano Ronaldo.
Je te jure, mon cousin en 8e division, il fait mieux aussi, je te jure.
Non mais
non, Eladj, c'est pas sérieux l'Arabie Saoudite, ça compte pas.
Personne t'a parlé d'Arabie Saoudite.
Ah non, dans sa carrière.
Non, on parle dans la carrière. On parle dans une carrière de football.
Sur le début d'une année,
des 5 grands championnats.
Il est en train de battre des records de buts en cette période d'année, c'est ça ? Tellement il a marqué.
En 20 matchs, celui qui a mis le plus de buts sur une année civile.
Je pensais que tu disais que CR avait plus de.
Non, au Real Madrid. Rien à voir.
D'accord, okay. j'ai compris. Ah, okay. Donc ça montre qu'il est en super forme Dembélé. C'est juste qu'on est en train de dire,
qu'il y a qu'un seul joueur qui a fait mieux et c'est Cristiano Ronaldo.
Okay.
Voilà, c'est tout simplement ça. Dans
Dembélé
les 5 grands championnats, on n'a pas parlé des autres championnats.
Très bien.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Ligue 1, Alexandre ? Quel match a retenu ton attention ? Le Marseille qui ont perdu à domicile, hein, on a pu voir.
C'est ce match-là.
Ça a été compliqué, ouais.
Ce match-là, c'est compliqué. En ce moment, Marseille traverse une passe compliquée. Et en plus de ça, là, j'ai vu, je crois qu'ils sont à 16 points de Paris.
C'est ça.
Franchement, c'est effrayant. Ça en dit long sur le niveau de notre championnat et je trouve ça vraiment triste. Mais c'est ce Marseille-Lens, en fait, et qui prouve que Marseille, à domicile, c'est vraiment une toute autre équipe. Et au bout d'un moment, il va falloir commencer à se poser des questions sur l'ambiance globale du club, je veux dire, dans la ville. En général, parce que c'est pas normal que ton équipe elle performe plus à l'extérieur qu'à domicile. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème quand ils jouent au Vélodrome. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils ont un peu peur ou quoi. Il doit y avoir une pression supplémentaire. Mais franchement, Marseille qui a lâché pas mal de points bêtes. Franchement, il y a eu ce match-là. Il y a eu aussi le match de Lyon qui l'emporte à Nice. Et c'est Léo qui doit être content. Mais franchement, c'est une bonne victoire pour les Lyonnais. Ça va leur permettre de continuer sur cette bonne lancée et faire le plein de confiance en plus pour la Coupe d'Europe. Et sinon, rapidement, le Paris Saint-Germain, sans trop de surprise, qui s'est imposé face à Rennes. Même si le match était un peu... il aurait pu tourner dans l'autre sens à un moment donné.
Des faits de jeu quand même un peu étonnants.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a eu des faits de jeu.
On pense à la petite main, à la main de Barcola qui méritait clairement un carton jaune. Hein, parce que si tu mets pas un carton jaune là, tu le mets quand le carton jaune? Et juste après, et justement, Brice Samba prend un carton jaune pour
ça. C'est ça. Et là, juste c'est là après, qu'il y a un problème.
Oui.
C'est un problème.
Mais juste après, l'arbitre, c'est comme s'il a voulu faire une compensation. Vous savez, on en parle beaucoup des compensations. Et c'est ce qu'il fait parce que juste après, Barcola tombe dans la surface. Il ne simule pas parce qu'il est touché, mais légèrement. Et là, tout de suite, l'arbitre lui met un carton jaune. Ça se voit que voilà, il s'est dit ah ouais, non, j'aurais dû mettre le carton. Donc c'est de la compensation. Nous, c'est un peu ce qu'on voit.
C'est pas bien la compensation, mais sinon voilà, Paris qui continue son long fleuve tranquille en Ligue 1 et d'asseoir sa supériorité, mais surtout qui marque beaucoup de buts. C'est surtout ça aussi qui fait la différence, c'est que Paris marque beaucoup de buts et ça, franchement, c'est toujours plaisant pour des fans de foot comme nous de voir une équipe qui est aussi offensive.
Voilà. En Ligue 1, en tout cas, ils parviennent à marquer beaucoup de buts, ça c'est sûr. Même en Ligue des Champions,
on peut
le dire.
On en parlera après la Ligue des Champions, Brest,
mais
franchement,
on y arrive. Mais voilà, en tout cas, en Ligue 1.
Soyez pas trop cruel avec Paris, je sais qu'il y a beaucoup de supporters.
En tout cas, ils performent en Ligue 1, on va rester sur la Ligue 1. Et ils performent en tout cas en Ligue 1. On a pu voir aussi Lyon qui se sont imposés à Nice avec un coaching payant, deux rentrées et deux buteurs, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas?
Moi, je pense que Lyon, c'est un peu l'équipe de la semaine. J'ai l'impression qu'ils se sont trouvés cette semaine. Pour moi, c'était super important, les deux matchs qu'ils avaient à jouer. De déjà gagner à Bucarest pour se mettre à l'abri pour le match retour à domicile. Et Nice qui est troisième à l'heure actuelle en Ligue 1. Donc, si Nice gagnait, Lyon était à 10 points derrière. Là, ils sont à 4 points. Donc, en fait, Lyon, ils restent cinquième seulement, mais ils sont totalement en course à la Ligue des Champions. Et donc, je trouve que c'est déjà au niveau comptable, c'est une victoire super importante pour eux. Et comme tu dis, les changements du coach ont été décisifs. Ça veut dire qu'on a vu que le milieu à 3, avec Etesman et Matic en double pivot, avec Tolisso plus ou moins en 10, il y avait quand même un manque de créativité. Et quand il en a enlevé un des deux, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Et pour faire rentrer Almada et après pour faire rentrer Cherki et là ça, l'équipe elle a totalement changé. Je veux dire, Cherki depuis un moment déjà c'est vraiment très très fort. La façon dont ils se trouvent les trois avec Almada et Miko Tadze, ah c'est du très beau football. Et quand t'as Fofana,
Tolisso
aussi, moi sur le dernier but c'est Tolisso. Mais je veux dire, les trois, les combinaisons de Miko Tadze, Almada, Cherki, c'est super beau. On l'a vu aussi avec Fofana en milieu de semaine. Donc ça veut dire qu'en fait il y a des gros enseignements déjà, que certes le fait de virer, on va dire, entre guillemets, Anthony Lopez, de le mettre en tout cas au placard, c'était risqué. Mais quand on voit les performances de Perry, aussi bien ce week-end que en milieu de semaine, il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux. Et ensuite, comme je te disais, là, on voit quand même qu'il y a un... Par exemple, il y avait une question, Lacazette, Miko Tadze. Je pense que là, Miko Tadze, rien que par sa science du déplacement et sa technique, il est en train de mettre fin au débat. Donc moi, c'est le match qui m'a marqué, Lyon-Nice, avec notamment les... Parce qu'on voit que Nice a quand même bien dominé la première période, hein, donc que Lyon ne prenne pas de but et qu'après, ils arrivent en fin de match à gagner. Je trouve que c'est vraiment l'équipe à retenir. Et je pense que Paris, ces 4 buts, ils vont leur faire du bien aussi. On voit que Paris a eu du mal à marquer contre Liverpool, on en reparlera tout à l'heure. Mais le fait d'arriver à en mettre 4 et de réussir encore à mettre beaucoup de buts match après match, je pense que c'est ce qui peut leur arriver de mieux pour espérer en mettre plus d'un à Anfield mardi.
On espère, on y reviendra bien évidemment. Hein. Et comme tu l'as si bien dit, hein, Lacazette qui a fait un match assez moyen, Miko Tadze, Cherki, ils ont sonné tout simplement l'alarme incendie, on peut dire ça comme ça. Ils sont arrivés révoltants et tout simplement ils ont changé le match. Hein, parce qu'avant ça, Lyon n'existait pas, hein, que ce soit dans le jeu ou en termes d'occasion, c'était très pauvre. Moi je regardais le match, franchement je m'ennuyais et j'attendais juste une ouverture du score pour que ça s'emballe un peu. Et c'est ce que Nice n'ont pas... c'est ce que Nice n'est pas parvenu à faire avec un très bon Perry, comme tu l'as si bien dit. Amadou, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette journée de Ligue 1?
Ben, moi, surtout Marseille, là, en fait, je pense qu'on s'enflamme beaucoup sur Marseille, parce que là, de perdre contre Lens, Lens qui a perdu ses 4 derniers matchs, 4 défaites, et ils arrivent là-bas, comme chaque année, Lens, ben, ils gagnent au Vélodrome. Et, franchement, bon, Marseille ne se gère pas. Hein.
Et on avait parlé la semaine dernière, on en parlait encore. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je disais attention à Marseille parce qu'ils sont plus qu'à 3 points de Nice. Bon, là, Nice, en l'occurrence, ils n'ont pas pu saisir le coche, Marseille qui perdent. Prochain match difficile parce que c'est le classico. Ils peuvent encore perdre. Et s'ils perdent en plus avec un score, Nice gagne de leur côté, Nice peuvent passer devant. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je me dis. Je vois pas en quoi la place des Marseillais est confortée en tant que dauphin.
Non, pas du tout. Hein, non, c'est vrai qu'à domicile, comme disait le collègue, là, ils ont vraiment du mal à domicile. On dit quoi, ils ont une grosse équipe cette année, mais bon, c'est un peu, ça reste quand même fébrile. Et là, ouais, en plus, c'est pas un cadeau le prochain match contre Paris, parce que si Paris se fait éliminer, Paris vont se défouler sur Marseille. Et bon, peut-être, allez, la seule chance que Marseille essaie de faire gratter un nul, il faudrait que vraiment les joueurs de Paris soient exténués, mais on voit que l'équipe de Paris, elle tourne beaucoup. Même là, c'est vrai que bah, j'ai retenu aussi ce week-end, j'ai regardé la première mi-temps contre Rennes. Et je vois que même avec des petits jeunes, tout ça, là, ça va super vite, ça va dans tous les sens. Mayulu, super fort techniquement. Et ils s'entendent tous ensemble. Ils peuvent mettre n'importe quelle composition, ça va super vite.
Et là, surtout en vue de Marseille, hein, de ce que Marseille propose, hein, ça ne va pas au bout. Mmh. En tout cas, ils n'arrivent pas à marquer. Et là, ça fait deux matchs déjà. Et on a vu De Serbi qui n'est pas content de Mason Greenwood et de Lucien Riquet et qui a fait un turnover avec eux. Est-ce que c'était une bonne idée aussi de les mettre sur le banc en sachant que quand il les a fait rentrer, ça n'a pas apporté plus que ça. En tout cas, moi, je n'ai pas vu un Mason Greenwood fantastique. Ouais. Lucien Riquet a eu une occasion avec une belle parade de Perry. En tout cas, Mason Greenwood, ces derniers temps, il marque le pas. Même s'il marque des fois sur penalty ou des petits buts partis par là contre le dernier de Ligue 1, c'est assez compliqué.
Moi, je suis pas inquiet pour Marseille globalement. Effectivement, Mason Greenwood est moins bon depuis quelques matchs. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on a un peu ce débat tous les deux mois. Ça veut dire que Marseille, c'est un peu une équipe qui fait des vagues. Il y a des moments où ils vont enchaîner les bonnes performances. Et après, ils vont avoir des trous d'air pendant 3-4 matchs. Et ils vont voir les poursuivants revenir. Mais au final, ils arrivent toujours à se maintenir à cette deuxième place. Il ne faut quand même pas qu'on oublie que De Zerbi, c'est un nouveau coach qui arrive, qui a quand même une philosophie de jeu assez ambitieuse. Ils ont changé 75% des titulaires l'été dernier. Tu vois, il y a plein de trucs qui font que l'équipe, elle est encore en train de se mettre en place. Moi, je pense que ça va revenir. Après, Greenwood, on sait que ce n'est pas un joueur qui est destiné, entre guillemets, à l'Olympique de Marseille. C'est plus pour des raisons extra-sportives qu'il s'est retrouvé là. Effectivement, il n'était pas concerné hier quand il est rentré. Et ça fait plusieurs matchs qu'il est... Enfin, même depuis vraiment des semaines, il n'est pas au niveau de sa première partie de saison. Mais moi, je pense que ça suffira. En tout cas, Marseille a les ressources pour moi pour garder cette deuxième place.
Alexandre, t'en penses de même ?
Ouais, franchement, j'en pense de même. Rien de spécial à rajouter, à part que finalement, en fait, c'est Nice qui a fait la mauvaise opération, en vérité, parce qu'en plus, ils étaient au courant du résultat de Marseille, donc ils auraient dû vraiment mieux faire.
Nice qui était invaincu à domicile.
Nice qui était invaincu à domicile. En plus, c'est un Lyon qui n'est pas non plus...
qui est pas bon,
qui peut
le dire.
Qui n'est pas très bon, on va pas se mentir.
On les a vus, moi en tout cas j'ai regardé le match pendant les trois quarts d'heure, franchement Lyon ne proposait rien, ils n'ont pas eu une occasion franche en première mi-temps, j'ai trouvé aussi comme toi qu'en première mi-temps
Nice a dominé largement. Il y a l'action où Perry fait un sauvetage de fou et quelques minutes après c'est Niakate qui vient sauver là sur la ligne. C'était vraiment ça, je pense ça a un peu tué les Niçois parce que vraiment c'est une occasion tellement forte que tu penses que tu vas ouvrir le score et finalement ils sont toujours à 0-0. Mais ensuite je trouve qu'en début de deuxième mi-temps Nice ils ont un peu baissé les pieds, tu sais, il y avait moins d'intensité et en fait Lyon ils en ont profité. Mais je trouve que c'est intéressant de moment où les matchs commencent à compter, où ça se resserre, Lyon même sans être super fort ils arrivent à battre des concurrents directs. Je trouve qu'on voit une équipe qui monte en puissance et une autre qui risque de marquer le pas. Et ça ne m'étonnerait pas que les dynamiques et les places s'inversent dans les prochaines semaines.
Ouais, rien de spécial à rajouter en vérité. Hein, franchement, tout a été dit.
Ok, et aussi Lille, hein, Monaco qui se font égaliser en toute fin de match face à Toulouse. Monaco, on peut en parler aussi. Et Lille qui se sont imposés 1-0 face à Montpellier avec un but de Jonathan David. Un but qui a son importance, hein, qui permet aux Lillois de gagner et d'espérer encore... faire partir de la Ligue des Champions en sachant que les concurrents directs ont perdu. Nice, en tout cas Nice et Marseille, ceux qui sont au-dessus, ont perdu directement. Du coup, ça les rapproche encore un peu plus de cette Ligue des Champions. Et Monaco, franchement, ces derniers temps,
ces derniers temps. Franchement, Monaco, en fait, c'est une équipe, on pourrait dire trop de choses, mais à la fois, on pourrait rien dire. En fait, parce que cette équipe, en fait, elle est agaçante, en vérité. Elle est agaçante et c'est un peu un ovni dans le championnat français. Parce qu'ils peuvent enchaîner 8 défaites, il n'y a personne qui va en parler en fait. Mmh. Personne qui va en parler, comme ils peuvent enchaîner 8 victoires, il n'y a personne qui va en parler. Parce que c'est une équipe qui est vraiment à part, mais moi c'est une équipe qui m'agace en fait. Parce que moi quand j'étais entre guillemets plus jeune, quand j'étais jeune, et c'est une équipe qui m'a vraiment beaucoup, qui a fait des grandes épopées, que ce soit en Ligue 1 ou avec le titre, qui a eu vraiment des bonnes générations.
Chaque génération a eu une épopée de Monaco,
voilà,
je pense.
Voilà, tu vois, chaque génération a eu une épopée de Monaco, et pour les anciens, il y a eu Rothen, il y a eu l'épopée 2004, on va dire.
Il y a eu celle avec le demi-finale avec Anthony Martial.
Anthony Martial en 2015, juste après, il y a eu 2017, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu des bonnes générations, il y a eu des très gros joueurs, etc. Mais Monaco, c'est toujours la même chose, en fait. Et là, ces derniers temps, il n'y a rien de particulier à dire. Pourtant, ils avaient fait un bon début de saison. Ils nous avaient un peu surpris et agréablement surpris parce que ça proposait du beau football, alors qu'en plus Zakaria n'était pas là, donc on s'est dit quand Zakaria va revenir ça va être encore mieux. Il a fait un bon retour, Zakaria, il a apporté, mais malheureusement ça suit pas derrière. Ben Seguir et Akliouche, on a l'impression qu'ils ont tous les deux la tête à peut-être partir. Franchement, Monaco c'est une équipe particulière et qui est limite malheureusement inintéressante. En fait, elle est limite inintéressante, cette équipe, parce qu'elle est trop, elle fait trop de vagues, elle est trop incertaine. Je veux dire, être supporter de Monaco aujourd'hui, franchement, ça doit être très compliqué. Parce que tu sais pas...
Qui supporte Monaco ?
Il y a très peu de gens.
C'est ça. ceux qui supportent quand ça gagne.
Qui ont été jeunes et qui ont vu une épopée, ouais. Et qui vont garder l'équipe. Mais
tu sais même pas c'est quoi le projet sportif. Parce qu'avant, on aurait pu dire que c'était de l'achat-revente. Mais maintenant, ils n'arrivent plus trop à vendre de joueurs, malheureusement. Parce qu'il y a eu l'histoire avec tout ce qui est la Russie, l'Ukraine, Ribolovlev, voilà. Je veux dire, c'est vraiment compliqué, quoi. Cette équipe, elle est compliquée, il y a un contexte compliqué, mais qui est malheureusement pour moi inintéressant. En fait.
je comprends ton point de vue, je vais juste compléter. Ils ont quand même recruté un gros buteur, Birès, je crois, qui est déjà à 3 triplés depuis son arrivée. Donc ça, c'est quand même une bonne pioche.
Ça, c'est vraiment une bonne pioche parce qu'il manquait vraiment un neuf. Les 3 neufs qu'il y avait, c'était qui ? C'était Mbolo.
Balogun était
Ilenikena.
Et Ilenikena.
Sauf que Ilenikena, il vient d'avoir 18 ans et les deux autres, ils sont blessés la moitié de l'année. Voilà. Donc c'est compliqué.
En plus, Mbolo, franchement.
Ouais, mais Mbolo, surtout, lui, il est vraiment claqué.
Dans le micro, s'il te plaît.
Lui, je sais pas c'est ce qui se passe.
Depuis sa blessure, il n'arrive plus du tout. Il est tellement maladroit, c'est dur.
C'est depuis qu'il a marqué contre son pays d'origine à la Coupe du Monde, là. Il
est devenu.
Avec la Suisse contre.
Non, mais juste pour finir, moi je trouve que le problème de Monaco c'est leur défense quand même. Ça fait plusieurs semaines qu'on voit des matchs où ils sont plombés par des erreurs individuelles qui sont assez invraisemblables. Ouais,
la perte de Dizazi, elle est.
Quand ton capitaine et ton leader de défense c'est Thilo Kehrer, tout est dit et tu peux pas espérer énormément de choses.
Thilo Kehrer, franchement, comment il a réussi à se retrouver là ?
T'as vu à Benfica à quel point il leur a fait du mal. Hein. C'est lui qui les plombe dans le match. Donc en fait,
je pense pas que c'est le seul. Singo depuis qu'il est remplaçant d'ailleurs.
Il fait des fulgurances de temps en temps où tu te dis que ça peut être un très bon défenseur de Ligue 1, mais d'autres fois,
je suis pas d'accord. Cette année, il est nettement en dessous, mais l'an dernier, il était énorme.
Van Dersen, il est défensivement,
il s'est jamais mis au niveau défensif.
C'est un tunnel défensivement, malheureusement. Caio Henrique, pareil, Caio Henrique, ça va, ça peut être une petite valeur sûre. Mais pourtant, quand tu regardes l'effectif de Monaco, tu te dis que cet effectif-là, il doit jouer au moins le top 4 tous les jours.
Ils sont désolé. Top 4 encore, non ?
Ils sont 4e, mais je veux dire, franchement, c'est décevant. Quand tu as Golovin, tu as des Minamino.
Tu les vois pas à plus de 22 points de Paris alors qu'ils restent quasiment 10
journées. Tu as le Lamine Camara qui est pas mauvais. Normalement,
t'as plein de bons joueurs. Bien
sûr. C'est plutôt dommage, en fait, cette équipe.
Merci, en tout cas. C'était tout pour la Ligue 1. On va rappeler, bien évidemment, le classement. Le Paris Saint-Germain en tête, largement en tête, avec 16 points d'avance sur Marseille. On peut voir Marseille deuxième, hein, qui ont 49 points et qui sont à 16 points, et à 3 points de Nice. Et ensuite, ça se tient en 2 petits points entre Monaco et Lille, qui sont à 44 points, 4e et 5e. Lyon, 6e avec 42 points. Même Lyon, hein, Lyon en une journée, peuvent se retrouver 4e. Hein. Voilà, ils sont tout proches. Hein. Lyon, en une journée, peut se retrouver 4e. Et Lens, qui peuvent peut-être respirer, y croire en tout cas à l'Europe. Voilà, en tout cas, c'était tout pour la Ligue 1. Bien évidemment, on va enchaîner avec la Première Ligue. Hein. La Première Ligue, Mohamed Salah, encore auteur d'un doublé. Manchester City, qui n'y arrive toujours pas encore pour cette saison. Hein. Ça fait une nouvelle défaite encore face à Nottingham Forest, un concurrent direct. Nottingham Forest qui conforte un peu plus leur place de 3e. Et on se dit que ça commence à sentir bon du côté de Nottingham pour la Ligue des Champions. On arrive juste après la virgule. Nottingham Forest qui se sont imposés vers la fin du match 1-0 face à Manchester City. Manchester City qui n'y arrive pas, qui n'y arrive plus. On a pu voir ce qu'ils ont proposé, c'était assez limité. Hein, on a pu voir, c'est assez limité. Aussi, il y a eu Arsenal qui arrache le nul face à Manchester United. Manchester United qui ont failli gagner hein, en fin de match même avec Bruno Fernandes et Raya qui fait une superbe parade. Il fait un match monstrueux. Sinon, United était... Voilà, en tout cas, ça a fait plaisir de voir une équipe d'United à ce niveau-là, peut-être.
Je suis mitigé. Je suis mitigé sur ce match, si tu veux qu'on en parle maintenant.
Vas-y,
ou pas.
Je t'en prie.
Ouais, parce que United qui fait le bon coup en marquant assez tôt dans le match, franchement. En plus, beaucoup
juste franc, avant la mi-temps,
c'est beaucoup franc bon de Bruno Fernandes, franchement, rien à dire. Mais quand tu vois la deuxième mi-temps, honnêtement, Arsenal méritait mieux, hein, moi je trouve. Hein. Franchement, méritait mieux parce qu'il y a des phases de jeu où United avait les lignes ultra resserrées, vraiment était vraiment derrière. Il y avait trois lignes compactes. Arsenal qui tentait. Et en fait, au bout d'un moment, ça devait forcément craquer. Ça a craqué, il y a eu un partout. J'ai envie de dire, ouais, première mi-temps Manchester United, deuxième mi-temps Arsenal. Mais la première mi-temps Manchester United, bah en fait, c'est une équipe qui joue plutôt en transition. Après, elle joue avec les forces qu'elle a, mais elle joue plutôt en transition. Et c'est vraiment Arsenal qui avait plus le contrôle du ballon, selon moi. Après, United, ils ont su bien exploiter les coups. Mais moi, je suis toujours mitigé sur ce club parce que. Après, en soi, c'est un bon résultat pour eux, bien évidemment. Mais quand tu vois l'effectif qu'ils ont, Højlund qui fait une entrée, elle est vraiment pas très bonne.
Catastrophique.
Vraiment catastrophique.
Il rate devant les cages en plus.
Ouais, il rate deux.
A contrario, Zirkzee commence à être intéressant. Tu vois
son jeu.
Je trouve que tu vois que techniquement, il arrive à gagner le ballon, qu'il arrive à, avec son jeu de corps, il arrive à faire du pressing.
D'accord.
Je trouve que Zirkzee, il est vachement intéressant.
Je peux être d'accord avec toi si on parlait de Brighton. Tu vois.
Non, en rôle de pivot, non.
On parle de Manchester United.
Soit pas au niveau, d'accord, mais je trouve que en tout cas, parmi les forces en présence, je trouve que Zirkzee, c'est plutôt quelqu'un qui montre des bonnes choses dernièrement et sur ce match en particulier.
Que Højlund, ouais.
Qui commence à être décisif aussi. Hein. Mais après, il faut penser aussi, Højlund, à un moment, il était très décisif. Hein. Il enchaînait, crois, 5 ou 6 matchs où il marquait.
Oui,
tous les
il
matchs.
Était intéressant.
Ça fait, combien, ça fait quoi 15 matchs, ils ont dit hier qu'il n'avait pas marqué Højlund. Ça fait
possible,
je crois 16 ou 17 matchs consécutifs où Højlund ne marque pas.
Il a pu marquer, c'était en Europa League. Hein.
Le micro, s'il te plaît.
En Europa League, il me semble que c'est la première fois qu'il avait marqué, ça fait.
Ça fait très longtemps, ouais.
Mais franchement, ouais, bah, United qui tombe. En fait, c'est un bon résultat en soi pour United de faire un partout contre Arsenal. Il n'y a rien. Y a
parce
rien
que
à
même
dire.
Les occasions de fin de match, elles sont très très grosses, mais c'est des contres. C'est un petit peu, tu sais, sur une touche de balle.
Bien sûr.
Qui, un petit peu hasardeuse.
Bah, c'est un peu brouillon. Mais après, ça, Ruben Amorim, franchement, on a vu avec quelles intentions il a voulu faire ce match. Il était plutôt dans un esprit de transition, de garder le résultat, de réaliser un bon coup. Quoi. Et bon, Arsenal qui perd des points, c'est souvent comme ça, quoi. Et comme tu l'as dit,
ils ont plus d'attaque là.
Alors que Nottingham Forest, à l'inverse, eux, ils continuent de grappiller des points à droite à gauche et voilà.
Sans Sakaya Vert, c'est très très compliqué. Et on commence à voir, je pense, aussi que Leandro Trossard, malgré toutes ses qualités, il a pas l'étoffe d'un titulaire chez un prétendant à la Première Ligue. C'est juste pas possible.
Ouais, après même l'entrée de Martinelli, elle est pas folle non plus.
Elle
est vraiment pas folle.
Martinelli, c'est un joueur très surcoté, ça.
Ah, moi, je trouve qu'il a été très bon pendant deux ans.
Il a été bon, en vrai.
Depuis un an et demi, ça a plus du tout.
Il était tout le temps souvent blessé. Pour moi, lui, c'est un coureur d'athlète.
Franchement,
devant les cages.
La saison qu'il fait il y a deux ans, elle est vraiment très, très bonne. L'an dernier, en fin de saison, il est moins bon. Et là, cette année, ça n'a pas du tout Martinelli. Et son entrée, là, mais là, il joue à droite en plus.
Il n'est pas très décisif.
À l'inverse de Raya, comme on a dit, qui a fait vraiment quand même un bon match.
Deux arrêts qu'il fait en fin de match, là, c'est des
arrêts en fin de match. Et même l'arrêt. L'arrêt à bout portant sur. Comment il s'appelle j'ai oublié. Il fait un arrêt à bout portant du pied qui est vraiment. Je crois que c'est en première peut-être.
Ah, c'est la talonnade là.
Non, c'est une autre. C'est plutôt dans le match. Mais non, franchement, Raya, il a fait un bon match. Même Onana aussi a fait un bon match.
Ouais, hein. il a fait quelques arrêts.
En tout cas, il faut le souligner. Cheikh Kenza qui nous a rejoint. Cheikh Kenza, comment ça va?
Bien.
Et bien, sans plus.
Ouais, good.
tant mieux.
Very good.
Super.
Bonne semaine de football.
Merci.
Ah, est-ce que tu as passé de bonne semaine? T'es fatigué, tu m'as l'air fatigué là.
Non, pas du tout. Ah, c'est normal parce que là, je viens de l'entreprise. Donc, du coup. Là, c'est cardio, donc c'est normal, mais après, ça va.
Ah, donc il te faut un peu de temps pour te remettre.
Non, pas
en
du
forme,
tout, mais je suis déjà dans le bain en fait. J'écoutais vraiment les interventions des uns et des autres. Après, ils ont parlé du match d'United. Ouais, vraiment, il y a eu en fait. Je crois que chaque équipe a eu sa mi-temps, en fait. Parce qu'en début de match, United, oui, ils ont eu vraiment le pressing haut parce qu'ils ont eu à déjouer les Gunners. Parce que comme ce n'était pas les Gunners, c'était les Baby Gunners, comme on peut dire. Parce que oui, puisque là, c'est une équipe qui avait vraiment rajeuni avec le flanc de l'attaque et tout ça. Donc, ils ont réussi à les faire déjouer. Après, il y a Bruno Fernandes qui marque un super coup franc. Mais Ruben Amorim, en fait, sa patte n'a pas encore pris vraiment sur la moule. Donc, du coup, il va falloir un peu de temps. Comme avec le Sporting, je crois qu'il a les bons prémices, en tout cas. La couleur qu'il annonce, c'est bien, mais il faut plus de temps vraiment pour mettre en place un jeu solide. En plus, il y avait un de ses vaillants soldats qu'il a perdu Amad Diallo, vraiment, qui faisait... Disons qu'il faisait déjà plus...
Il faisait une très bonne saison.
Voilà, lui, vraiment, qui faisait, plus de 50% du taf. Donc, après aussi, United, offensivement, c'est pas, en fait, c'est pas waouh, comme on dit, en fait. C'est pas chirurgical, c'est pas clinique, mais en fait, c'est un peu brouillon, comme il a dit. Voilà, ça se démerde un peu offensivement. Mais en termes de milieu, c'est costaud, ça construit, mais s'il n'y a pas des flèches devant, voilà, il n'y a pas des attaquants vraiment. Voilà, on a vu avec Rasmus Højlund, vraiment, qui est décevant pour moi, hein, ben, c'est mon avis personnel. Parce que tu imagines qu'il avait une balle, s'il la mettait vraiment, voilà. L'espoir de la Guinée s'était terni pour ce match. Donc, je crois que chacun a sa mi-temps. Mais United vraiment méritait de gagner, vu le contenu. Ah oui,
Ils ont joué les coups à fond. Je veux dire qu'ils méritent de gagner ce match.
Mais ils ont eu un temps fort en première mi-temps.
Mais depuis le début de saison, United, c'est comme ça. Il n'y a jamais vraiment de construction. En fait. Donc, tu vois, comme tu as dit, en fait, c'est un peu comme Chelsea à l'époque de Mourinho. Ça se démêle un peu. Après, peut-être, voilà, ça part. Comme on dit, on lâche des flèches.
C'est du football d'une autre époque.
Voilà, c'est du football d'une autre époque, en fait. C'est du football un peu décousu. À tout moment, voilà, on peut marquer comme on peut en prendre.
C'est ça. Mais du coup, je voulais revenir à ce que tu as dit. Effectivement, l'attaque, elle est assez brouillonne. Et ça me fait penser au match de Elanga, qui a fait un très bon match contre City. Tu vois, et tu vois qu'il laisse partir des joueurs Manchester, qu'ils en achètent très, très cher. Et qu'en fait, il n'y a pas de logique à leur politique sportive. Et je pense qu'on le voit aussi, ils le payent.
Et Elanga qui avait été critiqué d'ailleurs par Zlatan Ibrahimovic, hein, et il disait que, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est un Suédois aussi, Elanga, et il disait, c'est simple, maintenant United et la Suède avaient Zlatan Ibrahimovic, maintenant ils ont Elanga.
Je la connaissais pas celle-là. C'est bien d'attaquer des jeunes de 18 ans comme ça, parce qu'il n'a pas dit hier, il a 21 ou 22 ans.
Il n'en loupe pas une. Et ouais, il l'a dit du coup.
C'est du Zlatan.
C'est du Zlatan.
Non, voilà. Manchester, déjà, bon, je crois que c'est une des rares équipes qui n'arrive jamais à aligner deux victoires d'affilée dans toute la saison. Ils n'ont jamais fait. Dès qu'ils font une victoire, ils perdent après ou ils font match nul. Mais il me semble qu'ils.
Le problème des Red Devils, ça n'a pas commencé maintenant.
Ils ont enchaîné, mais c'était pas en.
Ça fait 10 ans qu'ils ont
perdu.
Ça n'a pas commencé maintenant, c'est quoi? Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, c'est pourquoi en fait, quand un entraîneur dit sur le banc, c'est bon. Mais par moments aussi, il y a aussi en fait, le côté, en fait, comme on dit, c'est avantage et inconvénient. Les inconvénients, c'est que quoi en fait, avec Ferguson, c'était la formation d'abord, après on rachetait des joueurs, par exemple à des postes qu'on n'avait pas réussi à combler. Mais là maintenant, tu vois, la formation elle porte ses fruits. Mais c'est pas en fait, c'est pas la top formation.
C'est des joueurs que tu vends en plus, souvent pour racheter des joueurs encore plus chers.
Et en plus, c'est des même un joueur par exemple qui est formé à United, c'est plus séduisant en fait. Tu t'imagines qu'il reçoit une offre de Chelsea ou des équipes par exemple comme City ou Liverpool. Du coup, il est capable d'aller chez l'ennemi. Pourtant, à l'époque, United, c'était séduisant parce que c'était le prestige, en fait. Quand on parlait du top club anglais, on parlait d'United d'abord. Donc, tu vois, il y a tout
comme il disait, le prestige, c'est bien, mais c'est pas tout le monde qui accepte ça. Nasri, en tout cas, j'avais vu une émission de Nasri et c'est ce qu'il disait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a pas signé à Manchester United parce qu'il voulait plus d'argent sur la table. Voilà, c'est ce qu'il disait. On va rappeler les scores Chelsea qui se sont imposés face à Leicester 1-0. Chelsea qui enchaîne, mais bon, c'est contre Leicester et c'est au Southampton. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Tottenham qui perdait 2-0 contre Bournemouth et se relance et égalise en fin de match 2-2. Wolverhampton qui se neutralise avec Everton. Aston Villa qui gagne à Brentford. Liverpool qui s'impose 3-1 face à Southampton.
Avec une boulette d'Alisson.
Ouais, je voulais absolument en parler aussi. Comment ils peuvent faire un match comme ça mercredi et être aussi ridicule sur le but qu'ils se prennent.
D'accord. Non, mais il sait s'adapter parce qu'il sait que c'est Southampton et on peut se prendre un but comme ça. Et derrière, on va en mettre 3.
Parce qu'il est moins concentré.
C'est ça qui fait beaucoup de boulettes, hein, moi je vous le dis. Moi je l'ai toujours dit.
C'est possible, mais il fait beaucoup d'arrêts aussi. Il y a très peu de gardiens qui sont capables de faire ça.
Pas du tout. Sa saison à l'AS Roma, elle était infranchissable. Ses deux premières à Liverpool, il est infranchissable.
Non, mais c'est un top gardien.
C'est un top mondial, Alisson.
En plus, ce que moi j'aime, c'est beaucoup son jeu au pied en fait. C'est-à-dire que c'est comme
un mitigé. Son jeu au pied, c'est pas le meilleur.
Pas trop.
Sur le but, en tout cas, il est décisif.
Non, peut-être c'est là où je crois que vous suivez pas trop le football anglais. Les deux premières saisons d'Alisson à Liverpool Son jeu au pied, Bestera, c'était inégalé. Il y a une saison où il fait une passe à laquelle ça la marque.
Tu confonds avec Ederson.
Non, tu confonds avec Ederson.
Non, je ne parle pas d'Ederson. Je ne parle pas d'Alisson. Tu peux regarder sur YouTube.
Alisson, il fait des passes.
Ederson est meilleur.
Tu peux regarder sur YouTube.
Mais je te crois. Je te crois. Mais justement.
Vous voyez, quand moi je dis jeu au pied, moi je comprends ce que vous voulez dire. Jeu au pied, c'est vraiment sur les trucs. Mais lui, il parle de jeu au pied, c'est il prend la balle et il dégage avec le pied. Il te fait des balles qui rasent.
Moi, je parle techniquement.
Quand t'es un défenseur, t'as Alisson derrière toi. Excusez-moi,
pas tous en même temps.
Attends, vous parlez de quel jeu au pied, toi, tu parles.
Non mais je parle du jeu au pied de un gardien, il doit être rassurant. Et pour moi Alisson, c'est pas le gardien le plus rassurant du tout. T'as un Ederson qui est capable de monter à 30 mètres et de faire des passes. Alisson, tu verras rarement Alisson faire ça. Après bien sûr que oui, qu'en demi-volée, c'est un gardien professionnel. En demi-volée, il peut aller chercher les 70 mètres et trouver et faire une petite passe décisive si ça fonctionne. Bien sûr que oui. Heureusement, il a un jeu au pied qui est correct. Mais techniquement, pour moi, c'est loin d'être le meilleur.
Ah, c'est pas... Les premières années, enfin, quand il arrivait à Liverpool, je me rappelle les premières années, dès qu'il avait le ballon. Comme souvent il faisait des boulettes, une fois il avait donné un ballon à Ghezal, là je sais plus quel match. Une fois il a donné le citron. Ah moi je suis hein.
Ghezal.
Ouais, je sais plus je vais dans quelle équipe Ghezal à ce moment-là. Ou une fois contre, une fois il donne le titre. Ouais, je sais plus c'était qui. Une fois il donne le titre à City en faisant pareil des boulettes. Et je me rappelle que le public à chaque fois que Alisson y recevait la balle, on entendait ouh genre parce qu'ils avaient peur. Ah non, lui, Alisson, ah non, moi, ça fait longtemps que moi je le suis. Hein. Il n'est pas aussi top gardien qu'on voit. Mais là, en tout cas, il a fait le match de sa vie la dernière fois. Mais...
Ouais. Merci. On va juste passer à la suite. Hein. En tout cas, Liverpool qui se sont imposés 3-1. On peut dire que les carottes sont cuites pour Arsenal et pour la Première Ligue. Hein. Même si Liverpool ont un match d'avance, ça leur fait quand même 70 points. Hein. Liverpool qui peuvent terminer à 99 points.
C'est une grosse saison. Ouais.
Grosse saison ouais.
Et Arsenal, deuxième avec 55 points. Nottingham Forest, troisième avec 51 points. Chelsea, quatrième avec 49 points. Chelsea qui vole la place à Manchester City, hein, qui ont perdu face à Nottingham Forest. Et Brighton, sixième avec 46 points. Newcastle sont en train de jouer et ils débutent face à West Ham
ouais.
Et il y a toujours 0-0 pour l'instant. Et Aston Villa qui ont gagné aussi ce week-end et qui se rapprochent des places européennes. Hein. Aston Villa qui sont à deux petits points de Manchester City.
Voilà, franchement, ce serait intéressant de prendre les paris et qui pense que Manchester City va terminer hors du top 4 ou pas.
Ouais.
Franchement, moi je suis mitigé. Je ne sais pas si Nottingham va pouvoir tenir la cadence toute la saison.
Ah, mais avec Arsenal aussi. Arsenal qui aussi, ils sont... Ils sont pas super
fiables
non
points,
plus.
Ils sont à 4 points d'Arsenal, Nottingham. Et ils ont 4 points d'avance sur Manchester City.
Ouais, derrière Liverpool, tout est possible. Ils sont tous tellement irréguliers que...
Moi, je pense que Manchester City ne finit pas dans le top 4.
C'est possible, ouais, ça c'est possible.
Moi, je pense qu'ils finissent 4e.
Ouais, je pense qu'ils finissent 4e.
Après aussi, il y a Chelsea qui le colle un peu au cul.
Chelsea leur sont passés
devant.
En plus,
ils ont plus Ligue des Champions.
En plus, Chelsea, ils sont pas,
ouais, Chelsea, ouais.
Ils sont pas foufous.
Ouais, ils sont pas foufous.
En fait, ils profitent des points qu'ils avaient pris
mais
en début de saison.
Mais attention, ouais, parce qu'en fait, t'as Newcastle. Newcastle, par exemple, ce soir, ils peuvent revenir à hauteur de Manchester City en termes de points. T'as Aston Villa qui peuvent leur passer devant en un match. Vous voyez, en gros, à partir de la 8e place, tout le monde peut terminer 4e en un match. En un match, ça peut changer. Du coup, même si ce n'est pas toutes les équipes qui pressent, une, deux, trois équipes, ça peut le faire. Attention. Moi, en tout cas, ça, c'est mon avis sur cette Première Ligue. Et voilà, en tout cas, pour la Première Ligue, on va se faire une petite pause avant d'arriver avec la Ligue des Champions, tout simplement. Le Paris Saint-Germain, qui ont perdu à domicile face à Elliott et Liverpool, hein, et on peut même dire avec un grand Alisson aussi, et on peut le dire, Arsenal qui ont cartonné tout simplement le PSV Eindhoven, le Real Madrid qui se sont imposés 2-1 à domicile face à Atlético de Madrid. Bref, on revient juste après la pub. Bah, c'était une petite virgule finalement, c'est pas grave. On va enchaîner hein, la Ligue des Champions, bien évidemment, le Paris Saint-Germain. On va commencer avec le Paris Saint-Germain, tout simplement, qui ont perdu à domicile. C'est dur de le dire, hein, mais ils ont perdu à domicile. Hein, et avec, comme d'habitude, hein, avec une équipe qui a dominé de bout en bout Liverpool, mais ça n'a pas suffi et ça ne suffit pas pour battre les Reds à domicile, malgré la possession de 71-29. Qui veut se lancer, qui veut commencer?
Moi, bon, pas quand j'ai tellement de choses à dire.
Oui, mais d'accord. Mais Chekenza, il est 21h06. On va commencer à te mettre le top chrono, toi, à chaque fois que tu prends la parole. Vraiment. Vas-y.
Oui, parce que vraiment, Paris, vraiment, pour moi, ils ont fait le meilleur match, en fait. le meilleur match, mais le match n'a pas été abouti. Comme on l'avait dit, en fait, l'expérience, ça compte beaucoup en football. Voilà, c'est une erreur de jeu. Peut-être, oui, Donnarumma encore, qui est encore fautif, là. Parce que là, s'il passe, il la pousse et qu'il part la chercher, mais opposé, bah oui.
Ah, elle est dure quand même.
Je suis
d'accord qu'il n'est pas fautif.
Mais moi, je crois qu'il est fautif.
Mais c'est
fautif,
là qu'on l'attend.
Il n'est pas décisif.
Voilà, exactement.
Si, pas parce que là, tu t'imagines que ça, un grand gardien face à ça. Bon, parce que tu imagines que durant le match, il n'a pas été inquiété.
Pour moi,
il n'a pas été inquiété. On ne va pas revenir sur Marquinhos quand même.
Marquinhos, Vitinha et Nuno Mendes sur le but, ils sont plus coupables que Donnarumma.
On va pas revenir sur eux. Quand même, Marquinhos, quand même, Islaï.
C'est un gros match, mais il se fait bouffer.
C'est compliqué. Ils sont en déséquilibre total.
Oui, parce qu'en fait, Paris, dans le contenu, c'est ce qu'on s'attendait. Ils ont fait douter les Reds d'Antam. Il n'y a pas eu vraiment de but, mais vraiment, ils ont fait le match parfait. Ils ont fait le match qu'il fallait. Et je crois qu'il n'y a pas de remords, même à la fin du match. Les joueurs même, ils ont dit qu'ils étaient étonnés plutôt en fait, du contenu de Liverpool, à quel point Liverpool a été vraiment fébrile, que ce soit sur le plan défensif, offensif et tout ça. On a senti vraiment un Virgil van Dijk qui était agacé, qui était stressé, voilà, qui parlait.
C'était très nul aussi. Hein.
Voilà, oui, vraiment, on a senti un Mohamed Salah qui était en deçà de la moyenne, qui a été bouffé par Nuno Mendes, vraiment, qui a montré qu'il avait vraiment les jambes et qu'il avait aussi vraiment le répondant.
Son meilleur match défensif
depuis
qu'il
est au PSG. Et on a vu Hakimi aussi.
Il finit par une boulette.
Hakimi, vraiment, qui a été, je ne sais pas, interstellaire durant ce match. Il était professionnel. On a vu un milieu de terrain vraiment qui... Voilà, donc pour moi, je crois que c'est des choses qui peuvent arriver. Mais Paris, vraiment, ils doivent revoir vraiment la concentration. Parce que quand on joue en Ligue des Champions, on se doit d'être concentré 100 minutes. Ils ont été concentrés 85 minutes. Et bien, à la fin, on prend un but qu'on ne devait pas prendre. Et en fait, ça réduit vraiment nos chances de qualification. Parce qu'en fait, c'est Liverpool, là, ils vont se réveiller quand même. Ils étaient malades, mais ils vont se réveiller. Ben oui, parce que là, on les joue dans peu de temps. Et ça va être difficile vraiment d'aller chercher la qualif, mais j'y crois.
J'y crois, en tout cas, pour la qualif.
Oui, j'y
crois. Merci, chez Kenza. Alexandre ?
Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. franchement, je vais essayer d'être concis.
Le plus concis possible.
Mais franchement, pour moi, c'est le meilleur match de Paris de la saison. Et le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas marqué, tout simplement. Et moi, je vous avais dit d'être patient avec Luis Enrique. Et pour moi, même s'ils se font éliminer là, déjà, se faire éliminer, si tu prends hors contexte, si tu sors du match, se faire éliminer contre Liverpool, il n'y a rien d'infamant. Mmh. Et moi, je suis très curieux de savoir comment Arne Slot... il a abordé le match, en fait. Parce que je trouve ça fou que Liverpool il se soit mis autant dans cette situation. Je me demande si c'est Paris qui était aussi fort que ça, ou si c'est vraiment Liverpool, où quand il a vu le début du match, Arne Slot s'est dit « Ok, on va rester en bloc médian bas et on va pas trop les chercher. » Je serais curieux de savoir. Après, les individualités
ont pêché. Il a répondu aujourd'hui. Il a dit « Paris était trop fort. » Il a dit « Paris nous a dominé dans tous les secteurs. Ouais, on va trouver des solutions pour que ça se passe différemment en field, en plus avec le public qui va nous pousser derrière. » Mais il a dit, en tout cas, Arne Slot a dit « Il faut pas minimiser la performance de Paris. Ils ont vraiment été super bons. »
Et ça répond à ma question. Et donc, c'est parfait pour dire que Paris, en fait, a fait un match qui, pour moi, était incroyable. Et je sais pas, quand vous voyez le match, en fait, j'avais une ambiance de fou au parc. Et quand vous voyez le match, genre, tu te dis, c'est exactement ce qui manquait dans toutes les années d'avant. Tu avais vraiment l'impression qu'ils étaient des habitués, en fait. Qu'ils étaient là, que c'était vraiment des gros joueurs. En plus, le contre-pressing qu'ils ont fait, surtout Vitinha et Neves, le contre-pressing qu'ils ont fait, c'était incroyable. Pacho, Marquinhos, ils ont fait un gros match. Hakimi, Nuno Mendes, un gros match défensivement et offensivement. Ils étaient partout. Franchement, il y a trop de choses à dire sur ce match. Mais franchement, il faut juste tirer son chapeau à Paris. Et le seul bémol, c'est qu'ils se prennent ce but à la fin, en fait. Et qu'ils ne marquent pas aussi. Mais
il y a d'autres bémols, moi.
Et après, plus tu avances dans le match, plus tu te rends compte qu'en fait, ils vont malheureusement pas marquer, parce qu'on connaît le foot et c'est déjà trop arrivé, en fait. Mmh. Et en plus, Alisson qui sort le match de sa vie. Et franchement, c'est en tout cas, en tant qu'observateur, moi, j'ai pris énormément de plaisir dans ce match. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y avait un niveau technique qui était très élevé, surtout du côté de Paris, parce que Liverpool, c'était un peu moindre. Mais il y avait un niveau technique dans le match qui était vraiment très élevé. Et ça prenait vraiment beaucoup de plaisir à voir ce match. Et je terminerai juste, t'as la sensation en fait que tous les joueurs ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et qu'en plus de ça, ils les brident pas. Parce que tu sens qu'ils ont du plaisir à jouer.
Contrairement au début de saison,
tu sens qu'ils ont du plaisir à jouer et les remplaçants ils apportent toujours une plus-value quand ils rentrent. Désiré Doué, il fait une bonne rentrée. Et voilà, donc franchement, Paris roule bien. Et pour moi, après à voir comment Liverpool va répondre, mais pour moi, rien n'est perdu. Je vois au début, vous étiez un peu truc, mais pour moi, en tout cas, en tant qu'observateur, il n'y a rien qui est perdu. Si Paris font un match comme ça, ça peut largement faire mouche. Et en plus, il suffit d'un but, tu peux aller en prolongation, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc franchement, rien n'est perdu pour moi.
Bien évidemment, le Paris Saint-Germain devra s'imposer à Anfield, hein, ce qui n'est pas une tâche facile. Hein, ouais. Quand on sait la muraille rouge, tout simplement, à Anfield, c'est même le format du stade, en fait, c'est le tout. Hein, comment tu vois Anfield, comment c'est configuré, ça fait peur. Et quand il y a l'ambiance à l'intérieur, c'est un 12e homme qui compte énormément. C'est la vérité.
Mais je râle, parce que le parc aussi est là. On sait que le parc, c'est une cuvette qui résonne énormément et que ça vibre. Il y a le Paris fan en dessous, ça a vibré.
Bien évidemment,
la pression, elle était là sur Liverpool. Ils ont quand même.
Bien évidemment, mais c'est pas comme à Anfield.
Non, Anfield,
c'est pas comme
à
Anfield.
Il y a une culture supérieure.
C'est pour ça que j'ai parlé de configuration. Attends, excuse-moi, chez Kenza. Tu sais, juste la configuration, c'est ce qui compte. C'est dans le sens où tu te retournes, tu vois quelqu'un qui est en face de toi, là. Voyez comment c'est fait. Ça monte.
Ah, tu veux dire, les tribunes sont très proches.
Ils sont très proches.
Parce que,
par exemple, voilà, alors qu'à Paris,
ils sont plus éloignés des tribunes.
Il y a une truc d'athlétisme autour.
Non, il n'y a pas.
C'est
le Stade de France.
Voilà, mais il y a un grand. Il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace. Même quand tu dois aller voir les supporters, or que eux ils sont déjà dans le truc.
Ouais, toi, c'est pas aussi impressionnant.
C'est pas aussi impressionnant. Or que quand tu rentres dans un stade comme ça et que tu vois des joueurs sont là, limite, et on le voit trop de fois, des joueurs qui font des doigts d'honneur, qui crient aux joueurs.
Ouais,
et le joueur,
supporter,
il
entend, avec
juste
les supporters
là, ou les supporters. Voilà, mais en tout cas, on voit qu'ils sont présents, quoi. Ils sont présents. Et ça peut peser aussi avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience ou qui ont moins d'expérience. Et c'est surtout ça qui a compté. Parce que. Oui, c'est bien beau, Paris ont bien joué. C'était un peu le même match contre l'Atlético. Hein. Paris ont.
Non, ils ont pas eu aussi les occasions franches qu'a eu Paris là.
Si, contre l'Atlético.
Ils ont joué aussi. Il y a eu des
ont tapé sur les montants. Ils ont tapé sur les montants.
C'était moins construit, tu vois. C'était moins fluide.
Non, là, il y a
match totalement différent. Ah ouais. La première heure, Paris maîtrise comme pas possible en fait.
Franchement, déjà vu. T'avais l'impression qu'ils avaient trois Ligue des Champions.
Se faire maîtriser comme ça.
Franchement, en tout cas, c'était impressionnant comment le Paris Saint-Germain.
Varadskeli, un gros match aussi.
J'enlève pas. Mais le résultat est tel que, au final. Liverpool, et c'est ça qui me fait peur. C'est un Liverpool aussi médiocre. Je regarde tous les matchs de Liverpool. Je n'ai jamais vu Liverpool jouer de tel toute la saison.
Parce que Paris est fort, c'est ça qu'ils disent Arnaud.
Oui, il n'y a pas de souci. Mais Liverpool qui reparte avec la victoire, quand même. Amadou, hein, sérieusement, toi, qu'est-ce que t'en penses sur la dernière action, sur le but? Qui est fautif selon toi? Il y a Donnarumma avec la main de jardinier, ou il y a aussi Nuno Mendes qui redescend pas, Marquinhos qui perd le duel.
Et Vitinha qui n'est pas réactif sur la passe de
Non, mais ils sont tous aspirés. Dès que Darwin Núñez touche la balle, ils viennent tous autour. Avec Pacho aussi, ils viennent tous autour de trucs parce qu'ils sont aspirés.
Pacho, il est sur un joueur.
Franchement, non, mais enfin. Moi, après, je dirais que. Après, voilà, bon, comme on dit, de toute façon, c'est toujours la faute à l'équipe. Mais pour moi aussi, quand même, Marquinhos est beaucoup fautif. C'est lui le capitaine. C'est lui qui doit être concentré du début jusqu'à la fin. Ça arrive, même si c'est un entrant, Darwin Núñez.
Même si c'est un duel perdu, tout le match.
C'est une erreur de concentration.
Non, c'est même pas une erreur, c'est un duel perdu. Parce que quand il perd le duel, ça n'est pas fini. Il n'y a pas but à ce moment-là.
Et la défense, parce qu'ils ne sont pas dessus. Déjà, je trouve qu'il ne tient pas bien Darwin Núñez. Bon, en plus, Darwin Núñez, franchement, on l'a vu, c'est pas un joueur extraordinaire. Il bouffe Marquinhos directement.
Il prend 10 centimètres, il a été
pris.
Et après, on voit que les défenseurs ne sont pas concentrés. Tout le monde vient sur le même joueur. Et Nuno Mendes qui laisse Harvey Elliott, qui est complètement déconcentré, quoi, qui laisse Harvey Elliott. Je veux dire, c'est la défense qui est fautive. Parce qu'après, Donnarumma, un des moments où il doit être le plus concentré, tout le match, il est resté à être spectateur. Là, le moment où on l'attend, il n'est pas là. Et sa main, elle n'est pas assez ferme. Je suis désolé. Donc, c'est un gardien, il est là pour arrêter des.
Donc, ce n'est pas la défense
frappes.
Qui est.
C'est la défense.
Bah, en fait, la défense, y compris le gardien.
C'est ça, voilà.
La défense, y compris le gardien. C'est
une erreur partagée.
C'est partagé, on va dire.
C'est peut-être une erreur partagée, mais combien d'erreurs ont fait la défense de Liverpool et qui ont été sauvées par Alisson? En fait, la semaine dernière, on en parlait ici, on se disait. Il nous faut un grand Donnarumma pour passer. C'est impossible sans un grand Donnarumma. Sans un grand gardien, c'est impossible de gagner la Champions League.
Tu peux pas gagner un titre.
Tu peux pas gagner. En Ligue 1, s'il est bon, ok, grand par la grandeur.
Ouais, parce que par la taille, il est grand.
1m98, le gardien.
Voilà, mais vraiment par l'aspect de la grandeur dans ses performances. Mais là, on voit Donnarumma, ça, tu prends un gardien de top mondial, il te le sort.
Bah oui.
Mais c'est Courtois, mais pour moi, Courtois est le sort.
Mais opposé, mais opposé.
Courtois, Alisson, vu le match qu'il fait, il le sort.
Mais opposé, même Ederson, il la sort.
Ouais, tu vois.
Ederson peut la sortir.
En ce moment, je sais pas.
En ce moment, je sais pas.
Mais non, mais c'est vrai, Raya de hier, il le sort.
Il le sort. En tout cas, on peut citer même Oblak, je pense qu'il
même
le sort.
Kevin Trapp, même Kevin Trapp peut l'arrêter.
Non, Kevin Trapp, je pense pas.
Non, Abdoulaye Del.
Non, et Navas, il la sort.
Même Sommer, il peut la sortir.
Oui, il peut la sortir.
Enkelo Navas, il la sort.
Je pense un peu moins.
Sommer, il peut te la sortir.
Enkelo Navas, il la sort. Kylian
Navas aussi.
Mais Donnarumma, sur un autre contexte, il peut la sortir aussi. Et le problème, c'est qu'il la sorte pas ce soir-là, à ce moment-là.
Non, mais il la sort contre Metz, mais il la sort pas contre.
Voilà,
Mais le problème est bien là.
Mais là, c'est pas Metz,
c'est
bien Liverpool.
Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Après, si je peux faire une digression sur les faits de jeu, au-delà du but, il y a quand même une faute énorme de Konaté. Et après,
tu veux qu'on en parle de ça?
Moi, je
veux
qu'on en parle.
Non, moi, je crois que c'est un fait de jeu. On va pas arriver là-dessus.
Ah bah si, parce que pour moi, c'est des choses qui peuvent te dégoûter du foot. Je vais m'expliquer deux faits de jeu. Il y a un problème. Konaté, c'est une charge dans le dos. Franchement, l'an dernier, Araujo, il est expulsé pour une faute qui, pour moi, est encore moins flagrante que celle-ci.
Non, je crois que tu te souviens pas.
En tout cas, pour moi, Konaté, ce qu'il fait, tu peux discuter pénalty ou pas, carton jaune ou rouge, mais tu peux pas ne pas siffler faute. Il y a quelque chose là, au bout d'un moment, Paris est mal arbitré, il faut le dire. C'est pas possible de pas siffler faute. Deuxième chose, sur le but de Kvaratskhelia, je sais plus si c'est lui ou un autre joueur qui est hors-jeu. Le hors-jeu, c'est un talon, alors que le gars est dos au but et qu'ils sont en train de remonter. Donc, limite, son hors-jeu, il lui fait perdre, tu sais, de l'avance par rapport au jeu. Et en fait, ce hors-jeu au millimètre, c'est en train de tuer l'esprit
du
jeu.
Franchement, je suis d'accord pour ça.
Et c'est pas le premier, et c'est pas que Paris d'ailleurs. Je trouve que ces deux choses cumulées, ça tue le foot. Ouais. Et sans aller juste sur la règle de Wenger qui veut que tant que tout le joueur n'est pas hors-jeu, tu peux faire de la marge d'erreur, tu peux faire. Quelque chose pour pas que ce soit aussi.
Mais en fait, c'est impossible, Lucas, de faire ça.
Je suis tout à
fait. De marge d'erreur. Il y a la VAR qui a le hors-jeu semi-automatique, tu peux pas faire de marge d'erreur.
C'est pas impossible parce qu'ils se sont trompés sur Nuno Mendes contre le City.
Mais tu peux pas faire de marge d'erreur parce que imagine là, il essaie une marge d'erreur. T'aurais tous les supporters de Liverpool qui auraient dit mais je comprends pas, il y a hors-jeu.
Ah non, pas sur cela, non, je dis qu'il faut changer la règle. Je dis pas qu'il aurait dû avoir une marge d'erreur. Mais justement, non, c'est pas binaire parce qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs, donc c'est pas binaire. Il y a des erreurs. Nuno Mendes, première mi-temps contre City. Paris doit mener 1-0, le but est refusé. Je ne sais plus qui marque, je crois que c'est Kvara qui marque finalement. Après, on a revu plusieurs fois de nous mener s'il n'était pas hors jeu. Donc, ce n'est pas binaire. C'est pour ça qu'il faudrait laisser pour moi 20 cm, 30 cm, on peut truquer. Et de toute façon, si tu es hors jeu, si tu es hors jeu, tu es hors jeu. Et si tu n'es pas hors jeu, tu es sur la même ligne. Donc, dans tous les cas, c'est l'arbitre qui prend sa décision. Enfin, bref, je trouve qu'il y a des faits de jeu sur ce match qui sont démoralisants. Ouais. Et
après, globalement, il a bien arbitré l'arbitre.
Franchement, pour moi, il a globalement bien arbitré. Mais quand tu es Paris, que tu as un. Tu sais, t'as une histoire avec l'arbitrage en Ligue des Champions. Cette faute de Konaté, franchement, elle fait mal parce que t'as l'impression que si Paris l'a fait, c'est carton rouge pénalty. Je te le dis. On a l'impression que quand c'est Paris qui l'a fait, c'est carton rouge pénalty. Et là, Konaté, il arrive. Et franchement, la faute, elle est flagrante.
Non, mais
on peut discuter de quelle faute.
Attends, excuse-moi. On va abréger.
Mais sinon, très bon match de Paris. Voilà. Très beau match et on y croit pour mercredi.
Ok. Alexandre, pour toi, il y a faute ou pas? Oui, non, s'il te plaît.
Faute.
Oui ou non?
Je peux pas dire oui ou non, c'est impossible.
Bah, si.
C'est impossible.
Excuse-moi, mais faut que tu me donnes un oui ou non.
On dit pas carton rouge, on dit
faute. Pour toi,
faute
ou pas?
Barcola,
tu siffles ou tu ne siffles pas?
Vas-y, ça veut rien dire ça.
Tu ne siffles ou tu ne siffles pas?
Il n'y a pas pénalty.
Moi, je pense qu'il y a pénalty
parce que c'est à l'extérieur de la surface, donc il n'y a pas pénalty.
Non, mais tu le siffles ou tu ne le siffles pas? T'es l'arbitre, tu siffles ou pas?
C'est simple.
Excusez-moi, attendez, excusez-moi, je suis en train de poser une question à Alexandre.
J'ai arbitré tous les week-ends, hier j'ai arbitré.
Voilà, c'est pour ça que je te dis, tu la siffles ou tu la siffles pas?
Vu le match là, je la siffle pas.
Ok.
Je mets pas un carton rouge sur ça.
Cheikh Kenza, tu siffles ou tu ne siffles pas?
Je la siffle, mais pas pénalty.
Dans le truc. De toute façon,
mais...
c'était pas dans la surface.
Voilà, je la siffle, mais carton rouge, oui. Parce qu'il y a bel et bien faute.
D'accord, c'est
parce
bon.
Qu'il
c'est bon,
déséquilibre,
c'est bon. Voilà. Mais Cheikh Kenza, la question, elle est simple. La question est très simple.
Oui, il y a faute.
Tu siffles, ok. Amadou, tu siffles ou pas? Non, mais faut... Attends, moi. Amadou, c'est pas ce que tu portes aussi, parce qu'il faut savoir.
Ouais, non,
Amadou
moi,
a un ancien maillot du Paris Saint-Germain, c'est quelle année d'ailleurs?
2002, celui-là.
2001.
Ouais,
ils sont encore en partenariat avec Opel d'ailleurs.
C'est le plus beau maillot du PSG.
Franchement, moi.
Dans le micro, s'il te plaît, Amadou.
Bon, j'entends beaucoup, énormément de gens qui disent bon, il y a faute.
Amadou, s'il te plaît. Amadou,
franchement.
Attendez, Amadou, s'il te plaît. Attends, j'ai l'impression que je suis pas clair. Attends, je vais répéter, je vais réitérer. Je vais réitérer parce que j'ai l'impression que je suis pas clair. La question, c'est tu siffles ou tu ne siffles pas?
C'est impossible.
Non, mais si, bien sûr que si, c'est possible.
Je pense que je siffle pas.
Tu ne siffles pas. Ok, tu ne siffles pas. Merci. C'est bon, Amadou, merci. Lucas, je te pose pas la question.
Ne pose pas.
Voilà.
Non, mais parce
Lucas
que...
siffle. Non, mais excusez-moi. Okay. Attendez. Attendez.
Toi, tu siffles ou pas?
Attendez. Jason, tu siffles ou pas? Tu siffles faute?
Non.
Il siffle pas faute. Jason ne siffle pas faute.
Et toi, tu siffles ou pas?
Voilà.
Toi, tu siffles faute ou pas?
Moi, je ne siffle pas.
Merci.
Moi, je ne siffle pas faute.
Intéressant.
Mais attendez. Parce que, par exemple, en première ligue, ça, une faute comme ça, jamais ils vont
Jamais ils vont la siffler.
Mais juste,
ils jouent pas le ballon de charge dans le dos. Marcola joue extrêmement mal le coup parce que souvenez-vous de l'action, il fait un appui en trop.
Oui, tu as raison. Tu as raison.
Je suis sûr qu'il siffle.
Tu as raison.
Je suis sûr qu'il siffle.
Mais
tout est dans l'interprétation.
Sachant pas qu'il y a faute,
c'est une question d'interprétation.
Il joue pas le ballon. Non, non, non. Il y a une charge. Il touche le joueur et il est loin du ballon. Faute. Point. Charge dans le dos.
Il est un peu en rush dans le dos.
Il est un peu en retard.
Il touche. Il est en retard.
C'est pas un scandale.
Marcola se laisse tomber un peu. Konaté le touche. Konaté le touche, mais.
Qu'est-ce qu'il joue mal le coup
par contre. En fait, c'est Konaté qui le joue super bien.
Oui, exactement.
De façon. Mais oui.
Mais non, la faute, elle est
grosse. Là, on est en première ligue.
Excusez-moi.
En Liga espagnole, on
l'a assis. Excusez-moi. Mais quand tu vas pousser quelqu'un et on voit le geste, même à la VAR, et que tu vois le geste, même si c'est pas fort, on va le siffler. Il n'y a pas de problème. Mais si on ne voit pas le gif et que le geste,
il joue très bien le coup.
Camouflé, il fait ça. Il fait ça.
À un moment donné, arrêtez. En Liga, on la siffle celle-là.
En Liga,
En Liga, l'arbitrage, il est complètement.
Non, mais c'est n'importe quoi.
Ouais, sur l'Ouest.
En Liga, il le siffle.
En Liga, ouais. En Liga, ouais.
Bien sûr. Mais comme il a dit, en première ligue, il le siffle pas, ça.
Ouais. Excusez-moi. Mais
franchement, j'ai vu des pénalties pour beaucoup moins de ça en première ligue.
Ah, bien sûr.
C'est une réputation d'arbitrage.
Mais là, il n'y a pas pénalty. Et là, c'est en première mi-temps. Carton rouge.
C'est ça.
Est-ce que tu peux le donner?
Ça joue énormément.
Est-ce que tu peux donner? Quel arbitre peut. Parce qu'en plus, la VAR.
Mais ça change la
fin.
Merci, Ladji. Merci.
Mais quel arbitre a des couilles? Excusez-moi.
Pour moi, ça, c'est le pire qu'un arbitre ait rien dit. Parce que moi, je t'ai dit, on peut débattre de tout. Carton jaune, carton rouge. Pénalty, pas pénalty.
Alors qu'il
n'y
a pas eu de vérification, je suis d'accord avec toi.
Si, il y a eu.
Il est allé voir.
Non, lui, il est pas allé voir.
Oui, ce que je veux dire. Que lui, il n'aille pas voir, ça, je suis d'accord.
Non, attends,
que la VAR
si,
lui
si,
dit rien,
si,
il va même pas,
c'est dingue. T'as fait une erreur manifeste. Mais si eux-mêmes juste que tu n'as pas fait d'erreur manifeste,
pour moi, c'est ça la plus grosse folie.
Ils n'envoient pas là-bas.
Oui, et là, pour moi,
ils ont
trouvé
que c'était léger. Je pense qu'ils ont trouvé que c'était léger.
Et comme il a dit, sachez-le que le moment du match, qu'on le veuille ou non, ça intervient et ça interviendra toujours. Le faire en première mi-temps, ça intervient. S'il avait fait la 70e, à mon avis, ça aurait été différent. Mais
c'est comme c'est au début.
Rien que dit ça, tu dis que c'est une faute
qui
doit être sifflée.
Non, parce que ce que tu comprends pas, c'est que l'arbitrage, c'est de l'interprétation. C'est pas à la carte comme ça. Tu peux pas.
L'interprétation,
ça doit favoriser le jeu, en fait.
L'interprétation, mais il y a quand même des faits établis. Heureusement, tu te bases sur des critères objectifs pour ensuite faire ton interprétation.
Oui.
Le critère objectif, c'est que la Konaté, il le tape dans le dos et qu'il touche pas le ballon.
Moi, je te dis, ce que je te dis, c'est que t'as 50 arbitres qui vont te dire qu'il n'y a pas faute. T'as 50 arbitres qui vont te dire
que
à partir de ce moment-là, il y a une zone grise.
Toi, tu dis, il le tape dans le dos. Moi, je dis, il le touche.
Oui,
tu vois la différence.
Il y a une zone grise, Lucas.
Non, mais la différence. Non, en fait, c'est pour moi, c'est pas une différence parce qu'en fait, à partir du moment où t'es lancé comme Barcola est lancé, un simple. Effleurement, si t'as déjà joué au foot, tu sais que un petit tirage de maillot, un truc,
comme
ça peut te faire tomber.
Vitesse, ouais.
Exactement. Là, le fait que. Mais il tape. Il y a son coude qui est devant lui, il tape avec son
coude. Il joue mal le coup, Barcola.
La mauvaise foi, les gars.
Non,
ça,
pas de mauvaise foi.
C'est Luis Suarez, je te dis qu'il y a tous les jours carton rouge et tout ce que tu veux.
C'est Luis Suarez.
Parce que je sais qu'il pourra le jouer. Non, mais parce qu'il pourra le jouer.
Si c'est Luis Suarez, il va donner penalty parce que justement.
Je sais qu'il pourra le jouer.
Parce que c'est Luis Suarez.
La remontada.
Oui, non, c'est bon, c'est bon.
Non, la faute.
Excuse-moi.
Non, le penalty sur Suarez
avec Marquinhos, c'est vrai que c'est un duel de la tête où il n'y a rien du tout.
Et là, il n'y a vraiment pas
penalty. Mais il n'y avait pas la VAR. Il n'y avait pas la VAR. On a vu des choses.
Il y avait des arbitres.
Il a voulu voir la barre, l'arbitre. Il a dit non, jouez.
Excusez-moi, mais voilà, en tout cas, le Paris Saint-Germain qui ont perdu à domicile face à Liverpool. Le Real assure l'essentiel. Le Real, très rapidement, on va faire un petit tour de table très rapide parce que le temps commence à défiler et il nous reste encore des sujets à traiter. Le Real Madrid, tout simplement, qui sont imposés 2-1 face à l'Atlético de Madrid. Cheikh Kenza, je vais te donner la parole puisque tu m'as l'air pressé d'en découdre. Vas-y, je t'en prie.
Et je crois que vraiment, on a assisté à un beau match. Vraiment, le Real, d'un temps qui a été sérieux, après vraiment les 20 dernières minutes, qui a levé un peu le pied. Donc, du coup, l'Atlético a repris un peu le match en main et tout ça. Moi, en seconde mi-temps, on a vu que le Real, ils avaient les cadres vraiment pour tuer le match. Avec un Brahim Diaz vraiment qui nous a régalé, qui nous a montré qu'il y a du génie, il y a du talent, que même l'équipe B, voilà, puis même les joueurs qui ne sont pas titulaires dans la rotation, le Real peut se permettre certaines choses. Le match retour, le match retour, ça promet, parce que ça sera au Rwanda Métropolitano. Et le Cholis, tel qu'on le connaît, vraiment, il va essayer déjà de remonter ses buts. Et pourquoi pas mettre le bus, mais contre Madrid, il sait que ça ne marchera pas, en fait. Je crois que le Real va se qualifier.
Merci, Cheikh Kenza. Alexandre, on sait que tu pensais ça déjà depuis. Alexandre.
Non, mais en vérité, bah, le match, comme j'ai dit aussi pour Paris, c'est la même chose pour moi. Il y avait un niveau technique, surtout en première mi-temps, je trouve, qui était vraiment... Oh, c'était vraiment très agréable à voir. Ça faisait longtemps que... J'attendais beaucoup ces huitièmes, et je suis pas déçu. Ça faisait longtemps que j'attendais un niveau comme ça. Mais ouais, le Real immortel. Hein.
Excuse-moi, mais j'en profite en même temps. Faut que tu me dises un mot sur Tchouaméni. Vas-y, continue.
Je te dirai un mot sur Tchouaméni, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a un joueur à qui il faut encore une fois tirer le chapeau. On ne le fait jamais assez, c'est Rodrigo.
Bien
franchement,
sûr.
Quel but. Parce que là, franchement, je vous assure, en vrai, on s'en rend pas compte. De la difficulté que
c'est.
C'est
du FIFA,
c'est du FIFA.
Incroyable.
C'est une difficulté de mettre un but comme ça, une vitesse comme ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et franchement, aussi le très joli but de Julian Alvarez.
Tous les buts sont magnifiques.
Franchement, magnifique.
Et le dribble de Brahim Diaz aussi.
Le match, je trouve assez équilibré en vérité. Assez équilibré, mais le Real avait plus le pied sur le ballon. Et pour moi, c'est toujours la même chose. Il manque un Modric en fait. Pour que le jeu il soit plus fluide et plus créatif, on va dire, il manque un Modric. Mais très gros match de Valverde.
Bah oui.
Énorme match de Valverde.
En latéral droit.
Mais et ça passe,
c'est Toni Kroos en fait, la réincarnation de Toni Kroos.
Et si tu veux que je fasse mon Toni Kroos arrière droit, je.
Non, mais la passe, je passe la passe en fait.
Il est beaucoup plus dans la passe.
Oui, dans la passe en fait. Parce que vraiment, tu t'imagines que ça élimine déjà deux joueurs cette passe en fait.
Excuse-moi, Cheikh Kenza, laisse terminer Alexandre.
Non, rapidement, sur Tchouaméni, tu voulais que je parle. Franchement, moyen.
Franchement. Tchouaméni, il retrouve des couleurs au milieu.
Franchement, vous voyez sa prestation.
Il a l'air plus sûr de lui. Il refait beaucoup plus de jeux longs dont on parlait. Il avait arrêté pendant un moment de jouer long. Il varie plus son jeu. Je trouve qu'il est plus intéressant depuis quelques semaines.
C'est vrai qu'un joueur qui joue long, ça veut dire que c'est un joueur en confiance.
Non, il récupère plus de balles aussi.
Non, mais en fait, je
utilise le ballon. Moi, c'est pour ça que je joue à son poste.
En fait, Tchouaméni en soi, c'est un bon joueur. Tu vois, enfin tranquille. Il en est international français. Il a fait des finales de Coupe du Monde, des finales de LDC, tout ce que tu veux.
Vice-capitaine français.
Vice-capitaine français. Enfin, bien sûr que c'est un bon joueur. Il a fait une très bonne saison à Monaco, rien à dire. Mais en fait, c'est quand tu compares le contexte global, pour moi, actuellement, en fait, c'est comme s'il faisait un peu tâche dans l'équipe, en fait. Dans le sens où 100 millions d'euros, t'as eu des Toni Kroos, des Modric, des Casemiro, maintenant t'as un Tchouaméni qui a fait quand même des erreurs, qui n'est pas assurance tout risque. Après, c'est vrai, on le demande de jouer en défense centrale, mais comme j'ai dit plusieurs fois ici, pour moi, quand t'es professionnel, tu dois savoir faire au moins deux postes minimum. Et moi, personnellement,
te remettre en défense.
J'aurais bien voulu voir Paoletta.
En plus, défenseur axial.
Mais non, mais rien à voir.
Bah si, il y a des gens qui ont des postes aussi. Moi, je déteste cette obligation d'être polyvalent. Je réfute tout ce que tu viens de dire.
Pour moi, t'es bon à un poste, c'est d'accord.
Ça veut dire que vous ne suivez pas assez tout ce qui est préformation. Ça veut dire que vous n'y connaissez pas assez en préformation. Dans les centres de formation et de préformation, tu es obligé de toucher à au moins 2-3 postes, d'être un petit peu polyvalent. L'entraîneur ne te prend pas, mais il y a des caractéristiques qui font que tu as des caractéristiques. Mais bien sûr que oui, que Giroud, j'aurais pas idée de le mettre en 6, ça me semble logique. Moi, quand je te dis 2 postes, c'est par exemple Giroud. Pour moi, il peut jouer seul en pointe,
ou avec
l'autre attaquant. Il peut aussi jouer à 2. Il peut aussi jouer, avec un 10 derrière lui. C'est ce que je veux te dire, en fait.
C'est pas un joueur polyvalent.
C'est ce que je veux te dire.
C'est pas un poste différent. Pour moi, ça reste attaquant.
C'est
juste...
Regarde Marcus Thuram. Pour moi, il y a une erreur de QI. Si t'es pas capable de jouer seul en pointe et que on est tout le temps obligé de te mettre dans ta position préférentielle, c'est-à-dire à 2 attaquants, ça veut dire que pour moi, il y a un problème si t'es pas capable de t'adapter. Tu vois, c'est ce que je veux te dire. Mais pour revenir sur Tchouaméni, c'est que c'est un bon joueur, évidemment. Mais pour moi, il est un petit peu en dessous. Et moi, même si Kamavinga, il est très naïf et il fait des erreurs, je préfère un Kamavinga parce qu'il apporte quelque chose de différent. Il a une touche technique qui est différente. Et personnellement, je préfère Kamavinga. C'est du ressenti, tu vois, c'est du ressenti.
Je comprends sur le tu sais, sur la sensibilité que tu as par rapport au joueur, tu préfères Kamavinga à Tchouaméni. Pour moi, là, depuis un mois et demi, deux mois, il y en a un qui monte en puissance, il y en a un qui est en chute libre.
Kamavinga, il est en chute libre.
Bah ouais, Kamavinga, il a fait des mauvais matchs récemment.
Il est pas en chute libre, au contraire, il est pas mauvais.
Il fait des bonnes entrées, il est pas titulaire de base.
C'est pour ça qu'il a été titulaire dernièrement.
Pour moi, Kamavinga, c'est pour, là, ça que Kamavinga, il n'est pas au niveau de ce, des derniers matchs que j'ai vu.
Kamavinga, après, contre l'Atlético, bon, c'est à cause de lui le but de Alvarez.
Mais non, absolument de... pas. C'est juste du génie d'Alvarez. Ouais. À l'endroit où il est, qui s'imagine qu'il va tirer, qu'il va la mettre.
Contre l'Atlético, il la met parfaitement bien.
D'accord, non, c'est un jusqu'au but, mais tu maîtrises mal ton joueur. Par exemple, si finalement Alvarez il fait un centre et qu'il y a but, tu peux dire que Kamavinga il est fautif sur le but. Tout simplement.
Après, quand même, il doit aller au charbon sans lui.
Comme il y a toujours
il n'est pas dans la surface.
Sur le oui, bien sûr, aller, ouais. bien sûr. Moi, j'ai une autre question, s'il vous plaît. J'ai une autre question à Eladj. T'en penses quoi de la dernière action ? Mbappé, il fait la touche de trop, alors que Vinicius est tout seul. qui lui a valu de se faire déchirer en Espagne. On lui a mis 1 sur 10 en
note. Hein, il s'est fait insulter.
Quoi de cette dernière action ?
Non, c'est même pas ça qui lui a valu le 1 sur 10, il me semble. Et je pense que j'avais vu.
Il fait un match catastrophique.
Il fait un match catastrophique.
Oh là là, il fait un match catastrophique.
Mais
Vinicius, il fait pas un bon match.
Il fait pas un bon match, Vinicius. Mais sur quelques petits trucs de génie où tu vois que son côté, il déborde. Oui, bien sûr. Juste ça, Vinicius, il te le fait juste deux fois où il déborde. Tu sais, tu crois qu'il peut plus aller, mais la ligne est encore plus loin.
Ils sont toujours deux sur Vinicius. Alors que Mbappé, ils sont un.
Ouais, parce que les joueurs, ils sont obligés d'être concentrés
bien
sur Vinicius.
Vinicius, tu sais que ça peut.
Regarde le but qu'il a mis ce week-end. T'as beau être.
Après, il dort un petit peu, mais c'est vrai que c'est un but de fou. C'est un but de fou.
C'est pas normal.
Même moi, c'est le meilleur joueur du monde.
Mais c'est un but de fou.
En ce moment, Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas à discuter. Il est trop fort.
Rafinha existe, mais ok.
C'est pas le même niveau. Vinicius, il est fort. Il est mieux que Rafinha.
Non, c'est Dembélé après ça.
Non, je crois pas. Vinicius, il les éteint.
Cette année, il y a des joueurs qui cartonnent.
Demain, ça sera Dembélé, le meilleur joueur du monde.
En termes de talent, Vinicius les éteint.
En tout cas, comparé à la saison dernière, au moins, on a plus le choix déjà.
C'est ça, on a des joueurs qui font des vraies bonnes saisons, au moins, c'est vrai.
Mais en tout cas, on y reviendra. Et oui, non, c'est pas ça qui lui a valu. Et je pense que Mbappé, il doit la donner direct. Mais en fait, le contrôle qu'il fait, c'est il se dit, est-ce que je peux tirer.
Il a peur.
Contrôle. Non, le deuxième contrôle, c'est parce qu'il se dit, est-ce que je peux tirer.
Ah ouais,
c'est ça, oui, j'en suis sûr. C'est l'instant.
Au début, il veut pas la passer.
Il veut pas la passer. Au début, il veut tirer.
Je suis d'accord avec toi.
Au début, il veut la passer.
Avant de comprendre exactement où il est, où tout le monde est, pour moi, il veut tirer.
Et quand il voit que c'est impossible qu'il tire et qu'il puisse marquer de l'endroit où il est, c'est à ce moment-là qu'il veut faire la passe, mais c'est trop tard. Ouais, mais bien évidemment.
Moi, sinon,
bien
il fait soit passe direct, soit contrôle passe.
Non,
je suis d'accord avec
toi. Après, c'est vrai que moi,
et c'est une qualité qu'Mbappé sait faire, contrôle passe ou la donner en une touche en retrait en sachant qu'il n'y a personne et tu la mets, t'es sûr qu'il y a but. Donc, non, il savait que depuis le début, il savait que Vinicius, où est-ce qu'il se trouvait, il aurait pu lui donner. Il s'est dit, est-ce que je suis trop proche de la ligne de sortie du 6 mètres où je peux me réaxer et tirer. Moi, j'ai même pas de doute là-dessus. Ah non, il a fait un mauvais choix.
Je sais pas, parce que peut-être on va dire je me trompe. Moi j'ai plus l'impression que on va dire il y a quand même des mecs comme Vinicius qui sont plus à l'aise techniquement que lui.
Ouais, je suis d'accord, 100% d'accord.
Comme des fois il aime bien faire
je sais ce que tu veux dire. Oui, il a fait la touche.
Je pense qu'il avait peut-être aussi peur de rater sa passe parce que s'il serait parti en profondeur et ça aurait été une gâchette en moins quoi. Si à la première passe il l'aurait raté, à mon avis, il a
sur les passes que je vois même dernièrement du milieu de terrain Mbappé. Non mais attendez, si vous regardez du milieu de terrain Mbappé, les passes qu'il va te faire en transversale, tu sais même pour pas que le joueur soit hors jeu, même le dernier but de Vinicius en Liga, c'était sur ça.
Oui,
il
fait
et il attend. Parce qu'au début, il est hors jeu. Non, mais à chaque fois, je vois les passes. Jeu,
là, il doit contrôler,
mais même ça, il s'est débordé. On le voit souvent centré aussi. Il y a des fois où il centre, il fait des bons centres. Oui. Il sait faire. Moi, je pense pas qu'il y a question de. Et même s'il loupe sa passe, il peut se dire, je la mets un peu trop en retrait. En vrai, louper sa passe, c'est quoi ? C'est s'il la met un peu trop en retrait. Vinicius était arrêté. Du coup, à ce moment-là, il sait que même si c'est un peu rentré, Vinicius peut faire le pas en arrière, ça se peut, et peut-être réajuster le reste. Et trop devant, tu sais que Vinicius, il la coupe. En fait, en aucun cas, il pouvait rater sa passe. Moi, je pense qu'il aurait dû la mettre directement, et c'est pas ce qu'il a voulu faire. Pour moi, c'est pas, il se dit, je ne peux pas faire une passe aussi simpliste que ça. La balle, elle n'était pas trop profonde, elle était maîtrisée encore par lui. C'est ce qui me semble.
Est-ce qu'on peut parler de son match ou pas, Mbappé ? Parce
mais bien
que,
sûr.
Franchement, moi, en fait, j'en ai marre de le voir décrocher. Moi, ça m'énerve. Oh, j'en peux plus. En plus, là, il n'y avait pas Bellingham, donc ça veut dire que ça se voyait encore
plus. Mais moi,
plus.
C'est ça. En fait, c'est ça, moi. Mbappé, je le vois faire des mauvaises prestations, généralement, quand Bellingham n'est pas là. Là,
possible,
les deux
possible,
matchs,
possible.
Bellingham n'était pas là. Et c'est ce qui manque, moi, je pense que c'est ce qui manque de connexion, parce que, mine de rien, quand Bellingham est là, ça change totalement.
Ça change, l'animation offensive, elle change.
Parce qu'en fait, je sais pas si...
Des fois, il se marche dessus un peu, parce que Bellingham,
non, Vinicius, il sait où aller, non. Il y a des endroits où Vinicius sait où aller pour que libérer de l'espace pour Mbappé ou pour Vini.
En tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une phase à un moment dans le match, moi, je m'en souviens très bien, c'est Mbappé, il s'est excentré à gauche et Vinicius ne sait pas où aller. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous regardez le match.
Ouais, si.
Il y a une phase où, en moment, il est en mode je sais pas si je fais
parce que,
il se marche un peu dessus. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est qu'Mbappé, quand il décroche, malheureusement, en fait, il y a personne au centre. Et c'est-à-dire que du coup, quand il crée un bon décalage pour se mettre en position de centre, Valverde, plusieurs, parce qu'en plus, il a une bonne qualité de centre, Valverde. Plusieurs fois, il était excentré pour pouvoir centrer, mais il n'y avait personne dans l'axe. Personne, parce que Vinicius, il était trop à gauche et Mbappé, il était trop en retrait. Et ça, pour moi, c'est un problème.
C'est pas
une
pointe naturelle, c'est un problème qu'on pouvait identifier déjà. Après,
ouais, bien sûr, mais il progresse sur ça
après,
quand même.
Après, lui, il dézone beaucoup parce qu'il veut se montrer.
Il
aussi.
Faisait déjà ça à Paris, mais c'est chiant. Enfin, c'est agaçant.
Parce qu'il veut se montrer, il veut pas jouer neuf aussi.
Bien sûr, mais c'est vrai qu'on l'avait vu à Paris, on le voit à Madrid, effectivement, il a plus de mal quand il refuse de prendre la profondeur, quand il refuse d'être un vrai. Soit un 9, soit un
10. Non, mais contre les blocs bas, des fois, c'est difficile. Et quand il décroche, quand il descend, c'est, je me dis, il veut toucher le ballon. Il veut le tâter un peu.
Oui,
comme ça, s'il
pas,
a une occasion.
C'est pas sa qualité première.
Non, mais juste,
équipe, c'est ça pour moi.
Non, mais juste venir tâter le ballon et après, il va la remettre en retrait. Et il va repartir faire un appel, tu sais.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Il décroche souvent juste pour faire une ou deux touches de balle.
Pour toucher le ballon. Moi, je pense que c'est ça. Parce que sinon, ça peut être comme Haaland. Ça peut être comme Haaland. Or, qu'Haaland, lui, il sait s'y faire. Il va toucher 3-4 ballons. Il a pas besoin de décrocher Haaland.
Il
a 3-4 ballons.
L'équipe,
mais,
tu vois,
mais tu vois
sur
ça.
Le bloc bas,
il
ne
pèse pas sur grand monde.
En ce moment, il est. Bon.
Tu vois,
après, aussi, il y a eu d'un neuf qui décrochait beaucoup, comme Karim Benzema. Il décrochait
oui,
après.
Oui, mais
là,
c'est pas le même profil. Karim Benzema, il est fin technique.
Numéro 10, Benzema. Numéro 10 qui joue neuf, en vrai.
Mbappé, dos au jeu, c'est un peu compliqué quand même. Dos au jeu, Mbappé.
Je crois que c'est des choses qu'il peut travailler parce que là, il est dans le club pour en fait. Non, je crois qu'il est dans le club.
Il a une très bonne technique en mouvement, mais en technique pure, Mbappé, c'est en dessous des joueurs.
Qu'est-ce que c'est chaud. C'est chaud.
C'est dur, des fois, dans les petits espaces et tout, c'est plus compliqué. Donc moi Mbappé je suis mitigé par rapport à ça,
mais je crois que là il est dans le club pour après vraiment c'est que à Madrid ça va vite quand tu fais un bon match, voilà, t'es acclamé.
Oui, la presse,
voilà,
faut pas trop la calculer.
Le second match on peut te tirer là-dessus
parce qu'on a pu voir d'ailleurs on va basculer bientôt sur la Liga, on a pu voir ce week-end ce qui s'est passé. On va vite défiler aussi un Lille qui arrache le nul à Dortmund. Je pense que ça a le mérite aussi d'être dit. Lille qui arrache le match nul 1-1 partout, même qui aurait pu arracher autre chose en vue de la prestation des Lillois, en tout cas en deuxième mi-temps. Il y a aussi le Barça en infériorité numérique qui se sont imposés 1-0 avec un carton rouge sur Cubarsí, c'est ça ?
Cubarsí,
ouais. Cubarsí depuis la 22e minute.
Quel idiot.
Du coup... Benfica qui ont eu je sais pas combien d'occasions mais qui n'ont pas réussi.
Chesney aussi gros match.
Chesney je pense que c'est le plus gros de la saison je pense.
De loin, ouais,
son match.
Ah
de loin,
il
l'a
dit lui-même.
Bah de toute façon le match qu'il avait fait contre Benfica.
Contre
juste
Benfica
avant,
là en poule non pire. En poule.
Je pense que. Il devait se rattraper à Billy Bob. Du coup voilà, mais il a pu compter quand même sur ses attaquants qui en ont mis 5 malgré que lui en a encaissé 4. Tu vois c'est. Voilà, c'est paradoxal, mais voilà. Mais très rapidement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner vos impressions sur ces matchs-là hein. Le Bayern aussi, qui sont imposés face au Bayer Leverkusen, 3-0. Voilà, très rapidement, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez du reste des matchs de la Ligue des Champions avant qu'on aille sur la Liga.
Première défaite de Xabi Alonso contre le Bayern.
Oui,
c'est déjà. Ouais, c'est même si c'était en Ligue des Champions, mais et là, boulette du gardien aussi,
oui,
je crois qu'il en fait une ou deux.
Une deuxième boulette de l'air.
Et là, ça va être
sur une célébration.
Ça va être très compliqué pour Bayer Leverkusen. En fait, peut-être le Bayer Leverkusen peut gagner, mais ils vont se faire éliminer. Ils vont peut-être gagner 2-1.
Avec Florian Wirtz qui est blessé.
Et qui est blessé en plus, ouais. Voilà.
Non, je crois pas.
Donc, ça va être compliqué. Non, peut-être ils vont gagner 2-1.
Pour moi, les 40
sont éliminés.
Non,
ils sont éliminés, toi.
Mais je crois pas parce que Xabi Alonso, il a fait la même erreur qu'à la finale de l'Europa League. En fait, c'est-à-dire que son coaching d'entame, vraiment, il ne réussit pas. C'est pourquoi là, ça part du côté du Real Madrid. Mais s'il fait ses erreurs à Madrid, mais là, il aura toute la presse, il aura toute la Castille à dos. Parce qu'à Madrid, c'est des choses qu'on ne digère pas. En fait, les finales, les matchs, ça, c'est des matchs importants. Les gros matchs, on les joue pour les gagner. Et donc, et lui, Xabi Alonso, il a du mal vraiment, en fait. C'est quelqu'un qui peut te sortir une grande saison, mais sur un match, vraiment, tu verras qu'il a un déficit en termes de coaching. Ouais, c'est-à-dire que oui, parce que dans le temps, par exemple, le 11 qui le fait, mais c'est copie conforme de la finale.
Faut
en fait.
Savoir que Xabi
il a pas
Alonso,
beaucoup de bancs.
Ouais, faut savoir que Xabi c'est Alonso, c'est sa première équipe aussi. Xabi Alonso.
Et il apprend.
Ça c'est des choses qu'il va apprendre.
Oui, même quand on apprend, tu peux pas répéter les deux mêmes erreurs. Même
après, c'est le Bayern aussi.
Oui, c'est le Bayern aussi. C'est le gardien qui fait une boulette. C'est pas des choses maîtrisées. Moi, je pense plus que le match, de la façon où il est plombé, et je le disais la semaine d'avant, c'est est-ce que Xabi Alonso va faire jouer Boniface ou Patrick Schick. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. il joue avec Adli et Tella, mais quand tu joues avec Adli et Tella, ça va peut-être te créer un meilleur collectif, mais t'as pas de neuf qui pèse sur la défense. Et on sait qu'ils font un neuf qui pèse sur Upamecano.
Ouais,
et qui
moi
quand tu mets Boniface, on a toujours vu que ça a mieux marché. Quand tu mets Boniface ou Patrick Schick, excuse-moi, mais quand t'as deux attaquants comme ça, c'est impossible de ne pas les faire jouer.
Ouais, mais collectivement, franchement,
collectivement, ils combinent. Non, ils combinent,
c'est
bons joueurs,
c'est ça le problème. Mais souvenez-vous du match en championnat Bayer Leverkusen Bayern Munich. C'était du haut niveau.
Non,
en plus.
Mais il a fait la même chose. Il n'y avait pas de Patrick Schick.
Oui, mais t'as vu comment.
Donc, t'es obligé de changer.
Ils ont surdominé le Bayern.
Oui, mais sans gagner.
C'était en coupe, je crois, non ?
Non, en coupe, c'était en championnat.
Oui, oui, non, pardon, c'était en championnat. Mais franchement, collectivement, ils dominaient.
Mais
il n'y
a pas de souci, mais tu ne gagnes pas le match. Dominer n'est pas
gagné. Voilà, au football, on joue pour la gagne.
Ils ont dominé, mais ils n'ont pas gagné.
Bon.
Tu peux enlever
le Barcelone.
Il n'y a qu'un Barça. Excuse-moi, mais tu peux
dominer et gagner.
C'est le beau jeu et ensuite c'est gagné.
Non, mais excuse-moi. Non, mais
c'est Fabregas en fait.
Il y a une différence entre un beau jeu et dominer. Tu peux enlever un peu plus de la domination et gagner un match. T'enlèves, tu mets Boniface à la place de Tella. Je suis
sûr. Oui, après,
que
c'est une question de coaching aussi. Je vois ce que tu veux dire. Après, peut-être tu peux te dénaturer dans un match.
Non, mais surtout en vue des performances de Patrick Schick et de Boniface qui sont tout le temps décisifs.
Surtout qu'en plus, il y a un Bayern prenable, c'est bien maintenant, malheureusement. Ils ont assuré. Après, si tu voulais parler des autres matchs, il y a Arsenal qui a gagné 7-1. Il n'y a pas de débat. Le Barça, c'est franchement qui a eu un match compliqué, qui a pas mal, parce que moi c'est le match que j'ai regardé avec Paris-Liverpool en même temps. Ils ont quand même pas mal subi avec le carton rouge, mais c'est là que tu vois, bah, pareil, hein, les grosses équipes, c'est que Rafinha, il en a une et il la met. Quoi. Enfin, et en plus le but, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est du très très haut niveau.
C'est
un petit peu contré, c'est vrai, mais c'est franchement c'est un gros match. Et l'Inter aussi, après c'est Feyenoord, mais c'est valeur sûre l'Inter, franchement.
Ah, Feyenoord,
ils ont éliminé
Milan juste avant. ils ont vengé leur cousin.
Ils ont éliminé Milan, mais franchement, Mais non, franchement, moi j'aime beaucoup ces huitièmes et j'ai hâte de voir les phases retour.
Ah, les phases retour, ça sera du lourd. Bah Lille, est-ce que Lille va pas avoir un complexe à la française? Bon,
ah, il faut pas, franchement, ils sont prenables Dortmund.
Parce que Lille, normalement,
Après, on parle d'expérience.
Dortmund,
ils n'ont pas la même expérience, c'est pas le même vécu en tant que club. Lille,
finaliste de la dernière.
Après, ils ont la chance de jouer à domicile.
Oui, mais bon, on sait que Lille, Dortmund était plus fort à domicile en plus qu'à l'extérieur, mais en Champions.
J'ai envie de miser sur Lille, moi.
En Champions, ils ont claqué un 3-0 au Sporting. Dortmund, on a pu voir, attention. Dortmund à l'extérieur, même, attention, c'est pas.
Parce que c'est une équipe
avec Guirassy qui n'a pas trouvé la faille depuis deux matchs.
Ouais. Et c'est le meilleur buteur aussi, c'est vrai.
Il va essayer de ne pas s'arrêter là.
Mais c'est Lille que moi j'ai vu, vraiment, c'est costaud en fait. J'ai beaucoup aimé l'attitude et tout ça. On sent que vraiment que Bruno, vraiment, qu'il a la main sur l'équipe en fait. On sent que vraiment il y a un travail qui s'est fait en interne. Ça travaille beaucoup les déplacements et tout ça. Ça mise un peu sur le collectif.
Ça mise totalement. Enfin, Genesio, il est critiquable à bien des égards, mais sur ça, franchement, quand il arrive à te mettre backer ailier droit et que ça marche, je peux dire que chapeau.
Ouais,
et quand Zegrova sera de retour, donc c'est pour ça qu'on espère qu'ils vont passer contre Dortmund, parce que Zegrova, là, il serait de retour. On verrait une fin de saison qui pourrait être super intéressante pour lui.
Après, ils vont sans doute se taper soit le Barça,
soit
le Benfica.
Ça fait deux matchs, tu vois. Oui, sûrement le Barça d'ailleurs, mais ça fait au moins deux matchs, tu vois, un peu prestigieux, qui te gardent dans la course pour la Ligue des Champions en championnat. Ça met tout le monde sous pression.
Avec Dortmund, il faudrait qu'il soit concentré pendant les 90 minutes.
Il faut être concentré parce qu'on a vu
90 minutes comme on a dit.
Être concentré jusqu'à la fin. Même après la fin du match, il faut être concentré. Bah oui, parce qu'il le faut. Parce qu'on connaît les équipes françaises. Voilà, il peut te sortir 90 minutes de folie et une semaine de déconcentration, tu perds le match. C'est comme ça. Au foot, ça va vite.
Merci, Cheikh Kenza. On va rappeler les scores de ces matchs. Hein. Lille qui ont fait 1-1 face à Dortmund. Le Paris Saint-Germain qui sont inclinés 1-0. On a pu voir Barcelone qui se sont imposés 1-0 aussi. Aston Villa qui se sont imposés... Ouais. Aston Villa, hein, 3-1 face à Club Rouge. Real Madrid qui se sont imposés 2-1 face à l'Atlético de Madrid. Arsenal qui ont cartonné le PSV 7-1. Inter 2-0 grâce à ses deux attaquants face au Feyenoord. Bayern Munich qui sont imposés 3-0. Je pense que de ce côté-là, les carottes sont cuites. En tout cas, on aura des beaux matchs pour demain et pour après-demain. Et j'espère qu'on aura de bons résultats pour les clubs respectifs, bien évidemment. On va enchaîner, on va se faire une petite pause et revenir avec la Liga et Kylian Mbappé qui a marqué, mais qui était, on dirait qu'il était mécontent, hein, qui serrait la mâchoire et ça a fait une polémique aussi. Hein. Tout ce que Mbappé fait, de toute façon, ça fait.
Il devait le savoir ça avant d'arriver.
Mais voilà, on y arrive.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
Il est 21h45 si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes dans les locaux de Mon Paris FM pour l'émission Au bout du foot. Bien évidemment, si vous venez de nous retrouver, vous avez loupé peut-être le début, mais vous le retrouverez en podcast et à partir de ce soir. Et bien évidemment, le Real Madrid qui ont gagné... qui sont imposés 2-1 face à Vallecano. C'était assez difficile en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a pu voir un beau Real. En deuxième mi-temps, ça a été assez difficile. Kylian Mbappé qui a marqué avec Vinicius aussi, hein, deux buts magnifiques, en tout cas surtout celui de Vinicius, hein, on a pu le voir. Et Mbappé qui a créé une petite polémique, mais bon, on va rester en surface, hein. On va rappeler le Barça qui n'a pas pu jouer cause de décès dans l'équipe technique, le médecin ouais. De l'équipe première du FC Barcelone qui est décédé ce qui a fait que le match entre le FC Barcelone et Osasuna a été reporté, on ne sait pas jusqu'à quand, mais pour l'instant...
Normalement c'est peut-être jeudi 27 mars.
Voilà, peut-être le jeudi 27 mars, merci Alexandre pour cette précision. Et on a pu voir l'Atlético de Madrid qui se sont fait piéger à leur propre jeu, hein, tout simplement, et en 4 minutes, ouais. Face à cette équipe de catcheurs, comme dirait Alexandre, Retafé sont imposés 2-1
équipes horribles.
En 4 minutes, tout simplement, fallait pas louper cette fin de match avec Correa qui a pris un carton rouge. Et je pense que c'est lui qui les a un peu plombés, hein, qui est sorti.
Et il risque beaucoup de.
Entre 3 et 12 matchs, ouais, ça, ouais. De suspension, ouais. Après avoir insulté vulgairement, très vulgairement, l'arbitre de ce match. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Alexandre vas-y, Alexandre.
Vas-y. Sur le Real, ouais, franchement, leur première mi-temps, elle était. Disons que c'était un peu compliqué parce que le Rayo Vallecano après c'est une bonne équipe d'Espagne, hein, le Rayo Vallecano, franchement ils jouent pas mal,
ils sont 8e
non
7e ils sont descendus, ouais.
Où il y a un point de Mallorca qui
ouais, c'était 7e avant, mais du coup ouais, franchement bonne équipe du Rayo Vallecano qui est venue jouer avec ses forces. Après bon, le Real était meilleur, hein, y a rien à dire, ils poussaient, puis ils ont fini par marquer. Très beau but de Mbappé, ensuite deuxième but dans la foulée de Vinicius. Mais par contre, la deuxième mi-temps, franchement, j'ai pas compris. Parce qu'en plus, là, il y avait le retour de Bellingham. J'ai pas compris comment tu peux proposer un tel football. Franchement, j'ai pas trop compris malgré les changements qu'il a voulu effectuer. Même moi, je réclamais Modric. Modric, il était titulaire. Et il a fait une deuxième mi-temps en moyenne. Franchement, ça m'a un petit peu déçu la deuxième mi-temps du Real. Mais sinon... franchement, c'est très très serré dans le haut du classement. Mais la mauvaise opération, bien sûr, c'est l'Atlético. Parce que là, s'il gagnait, il repassait devant le Barça avec un match en plus, à un point. Alors que là, les deux résultats permettent quand même au Barça de rester.
Et même la confrontation en plus directe.
Tu peux le laisser faire.
Non, mais l'Atlético, j'ai regardé aussi le match. Franchement. Les deux équipes, c'est compliqué, hein. Franchement, pour ceux qui suivent le championnat d'Espagne, ils savent, hein, mais Getafe Atlético Madrid, c'est compliqué. Et quand l'Atlético doit produire du jeu, c'est difficile. Griezmann, en ce moment, il est un peu en dessous. Et tu sais que s'il n'y a pas Griezmann, malheureusement, en termes de créativité, Pablo Barrios aussi, il est en dessous. Et quand il n'y a pas les deux, mais Llorente aussi, donc quand il n'y a pas les trois, c'est compliqué de créer du beau jeu. Et ils se font surprendre, ils se font prendre à leur propre jeu. Et franchement... j'ai envie de dire cher, hein, ça se dit pas trop, mais j'ai envie de dire ça, franchement.
Ça, c'est le cœur de. Voilà, ça, ouais, c'est Alexandre, non, le supporter qui parle.
Donc, voilà, et le Barça qui peut repasser devant s'il gagne le match contre Osasuna. Et par contre, l'Atlético ont un calendrier qui est très compliqué. Je sais pas si vous avez vu leurs trois prochains matchs.
Barça déjà ce week-end.
Trois prochains matchs, c'est Real.
Bah, Real déjà.
Barça en championnat et Barça en Coupe du Roi. Donc, franchement, là, ça va déterminer saison. Donc, ça va être passionnant cette fin en Espagne. Voilà.
Merci Alexandre. Qu'est-ce que tu en as pensé chez Kenza très rapidement?
Moi, le Real Madrid, vraiment, on a assisté à un beau match. Voilà, comme il a dit, au début, vraiment, l'équipe du Rayo, elle était très joueuse. Voilà, sur les sorties des balles, on avait un pressing et tout ça. Mais après, comme au Real Madrid, tu vois, même quand le Real est moyen, le Real Madrid est moyen, il y a deux joueurs vraiment qui sont au-dessus du lot, soit à Mbappé, soit à Vinicius, voilà, qui a montré vraiment qu'il est le meilleur, en fait. avec son but et tout ça. Et même la passe, le but de Mbappé, c'est lui qui fait la passe décisive, homme du match. Donc, du côté de l'Atlético, le Cholis vraiment s'est mis en échec tout seul. Voilà. Et c'est, le Cholis a montré un peu ses limites. Comme il a dit, oui, vraiment, Correa, vraiment, qui sabote un peu l'équipe. Voilà. Et Griezmann, oui, qui est un peu. Je crois que Griezmann, ces derniers temps, ce n'est pas le même joueur. Peut-être qu'il s'est dit à certaines difficultés. Mais le Barça a une chance pour, voilà, pour prendre un écart. Mais je crois que la saison va se jouer jusqu'à la fin, jusqu'à la 38e journée. Là, rien n'est encore cuit. Quoi.
Merci, Cheikh Kenza. Lucas ?
Moi, je n'ai pas vu les matchs de Liga ce week-end, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que je rejoins Alexandre sur le fait que l'Atlético de Madrid, quand même, c'est un peu dommage de perdre ce genre de match. Ils s'abordent un peu. En fait, ils enlèvent un petit peu du suspense qu'on aurait pu avoir, qui aurait pu durer jusqu'aux ultimes journées.
C'est pas fini, il reste à un point tout de même du Real.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Et à un seul point du Barça.
C'est pas du tout terminé là.
Non, c'est pas terminé. Mais ça fait que 4 points.
J'estime que l'Atlético, c'est une équipe qui a moins de marge que le Barça et le Real en fait, donc ils ont moins le droit à l'erreur. Donc pour moi, c'est ce genre de résultat à ce moment-là de la saison. Alors, quand tu vois l'effectif, quand tu vois le jeu déployé, ils ont quand même moins de.
Tu sais que tu vas jouer contre ces équipes-là et que tu peux rattraper les points perdus. Et
en plus, c'est un goal-à-virage particulier en Espagne.
Et que surtout, c'est les face-à-face qui comptent. Mmh. Et ils ont déjà gagné face au Barça. Et ils ont fait un match nul contre le Real.
Non, mais deux matchs nuls. Ah oui, ils ont joué les deux.
Ils ont joué deux matchs en Ligue 1 encore.
C'est les face-à-face qui comptent. Ouais. Donc, déjà, si ça s'arrête là, tu sais qu'ils tombent à égalité de points avec le Barça. Mmh. Ils sont devant le Barça.
Mais rien n'est joué en vrai.
C'est pour ça. Et en sachant que s'ils se font éliminer de la Ligue des Champions, ils n'auront plus que ça à jouer. Et la Coupe du Roi, ça aussi, c'est un détail qui va compter.
Ils sont pas éliminés
énormément.
Ils sont pas éliminés, non, ils sont pas éliminés. Mais il faudra bien qu'il y en a un des deux qui soit éliminé entre le Real et l'Atlético. Ça leur donnera un avantage en Liga.
Franchement, grosse saison en Espagne.
Ça leur donnerait un avantage en Liga.
Convaincu du tout que l'Atlético va tomber.
Je pense que l'Atlético peut le faire, justement. Je parlais
en Ligue des Champions, pardon.
Les trois tableaux, ils sont pas morts, l'Atlético.
Je suis d'accord. Mais je trouve que tu vois, ils ont pas assez de marge d'erreur pour perdre ce genre de match. Et là, ils ont grillé une cartouche. On verra après si ça leur est défavorable ou pas. Mais je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas gagné le match. Voilà, c'est tout.
Merci, Lucas. Amadou.
Enfin, moi, honnêtement, j'ai pas regardé les matchs de Liga. Enfin,
dans le micro, s'il te plaît, Amadou.
Honnêtement, je dis, j'ai pas regardé les matchs de Liga. Bon, j'ai dû voir les extraits. Enfin, j'ai vu le but de Vinicius où il se balade en défense. Mais quand j'ai regardé les statistiques, par contre, du match, le Rayo Vallecano, ils ont eu beaucoup d'occasions dans ce match-là. Ça n'a pas été un match facile non plus.
Et
en plus, c'était un derby.
Après, quand tu te fies juste aux statistiques,
les tirs n'étaient pas vraiment dangereux.
Parce que ça restait quand même un derby. Bon. Le Real, je pense, c'est un peu aussi économisé en attendant le match de Ligue des Champions.
Bien sûr.
L'Atlético Madrid qui perd dans le derby aussi, pareil, Getafe, le club de Madrid encore, qui perd des points. Et c'est vrai que, là, comme disait mon collègue, l'Atlético perd souvent des points contre les petites équipes. Même, la dernière fois, c'était contre le Ganes, ils avaient perdu. Enfin, ils sont, en fait, dans les gros matchs, ils sont chiants. Mais,
parce que dès que tu dois créer du jeu, c'est plus compliqué.
Pour créer, c'est compliqué.
Exactement.
Merci Amadou. Mm. On va rappeler le classement. Le Barça, premier avec 57 points. Le Real. Attendez, il me semble que.
Et ça, le Real 2.
Ah, oui, c'est ça. À égalité de points avec le Barça, et le Barça qui a un match en moins. Atlético, 3e avec 56 points. Atlético Bilbao avec 49 points. Villarreal avec 44 points. Et le Betis avec 41 points. Voilà pour la Liga. On va enchaîner directement en 100 virgules. On va enchaîner avec l'extra un peu sportif. Hein. La sanction est tombée plutôt. 9 mois de suspension pour Paulo Fonseca. Mmh. Mérité ou sévère selon vous, très rapidement s'il vous plaît. Cheikh Kenza.
Moi je crois que mérité.
Pour toi c'est mérité?
Oui c'est mérité.
Mérité, moi j'en ai marre, c'est des éducateurs avant tout, au bout d'un moment faut qu'ils prennent la responsabilité, c'est n'importe quoi de faire ça, donc c'est 100% mérité.
Je suis d'accord sur le principe, je trouve que c'est un petit peu sévère, pour moi ils auraient dû rester sur les 7 mois requis et pas mettre l'été en plus pour qu'ils puissent commencer la saison prochaine. Là on a un peu l'impression qu'ils veulent limite c'est lui casser son contrat à Lyon, mais je trouve que globalement c'est une sanction qui est méritée. Et d'ailleurs, faut le dire, Paulo Fonseca, c'est quand même un récidiviste. On l'a vu plusieurs fois à l'AS Roma, au Milan AC, ou chez nous à Lille, être très très véhément avec les arbitres. Mais sauf qu'à chaque fois, il prend un match, deux matchs, et ben voilà, Valébec.
L'air ne commencera plus après.
Je pense que là, ça l'a un peu calmé. Ouais. Mais c'est une bonne chose du coup. C'est pour ça que pour moi, la grosse sanction, elle est méritée. Mais ça aurait été plus raisonnable de l'arrêter à l'été. Et voilà. Mais sinon, globalement, pas si sévère que ça.
Et toi, Madou?
Moi, j'aurais dit très sévère. Bon, peut-être qu'il prend un peu pour tout le monde. En plus, les arbitres, comme c'est un peu houleux en ce moment, l'atmosphère. Bon, après, c'est quand même bien aussi, c'est sûr, parce que ça reste un éducateur par rapport au monde amateur. C'est sûr qu'il faut sévir un peu, parce que c'est eux qui montrent l'exemple. Et on sait que dans le foot amateur, c'est très, très chaud, même pour les arbitres. Donc voilà, sévère, mais on va dire très sévère, mais mérité.
Très sévère, mais mérité. Mmh. Moi, franchement, je vais quand même donner mon petit avis là-dessus. Hein. Moi, je trouve que c'est très, 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 très sévère. Mmh. Très, très, très sévère. Quand je vois ce qui se passe dans les autres championnats, ouais. Et pour moi, ça, c'est un outil qui fait que régresser au niveau de la Ligue 1. Je comprends qu'il faut défendre les arbitres et qu'il faut les truquer, mais il faut savoir que l'arbitre fait partie du match. L'arbitre fait partie du match. C'est pas quelqu'un qui est extérieur au match. C'est quelqu'un qui... C'est une des personnes qui va compter dans le match. Donc, je ne tolère absolument pas le comportement de Paulo Fonseca. Bien au contraire. Mais comme Jurgen Klopp l'a dit, il l'a fait en Première Ligue. Et pas qu'une fois. Ouais, il n'a jamais pris de carton. Même un carton jaune, il ne le prend pas.
Je t'assure que c'est deux trucs vraiment différents. Tu sais que ça, tu peux pas trop comparer.
Non, non. Je vous dis juste, en termes... Non, mais moi, je vois... Par exemple, là, moi, j'ai vu le Roy Sané sortir... Il y avait l'arbitre de touche, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'arbitre de touche qui met sa main comme ça, et Leroy Sané, il arrive, il pousse sa main
contre
comme
Bourgogne,
ça.
Là, ce week-end, oui, pour moi, ça, j'ai pas fait attention à ça.
Pour moi, ça, c'est dingue.
Mais lui, là, ouais.
Quand
ouais.
Il sort,
c'est dingue de faire ça pour moi.
Ah, j'ai pas vu.
Ah, mais lui, là.
J'ai vu le match, mais je l'ai pas vu.
Je vais vous le montrer en off, mais il n'y a rien du tout qui est sorti, même au niveau de la presse. Parce que pour eux, voilà. Vous voyez, vraiment, et même l'arbitre, il lui parle un peu et après il s'arrête. Ouais, mais... Moi, je pense que en France, là, moi, je pense que Paulo Fonseca, sincèrement, il a pris pour Benatia, pour l'étang, pour.
Mais pour moi, Longoria aussi, il doit prendre cher pour ce qu'il a fait.
Excusez-moi, mais Longoria qui dit c'est de la corruption, etc. etc.
Mais il doit prendre cher.
Attendez, il est juste privé de vestiaire, mais il s'en fiche.
Non, mais c'est parce qu'en fait, il n'était pas sur la feuille de match, malheureusement. Et ouais. Pourtant, il n'a rien à faire en bas normalement, mais bref, il n'est pas sur la feuille de match, du coup, il ne peut pas prendre comme les autres.
Mais quand même, mais il n'a rien à faire.
Mais moi, je suis d'accord avec toi.
Ça lui est égal d'être dans le vestiaire.
Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, si tu tolères. La sanction en soi, elle peut être sévère. Je comprends.
Non, pour moi, elle est trop sévère.
Elle est sévère. Mais c'est juste que il faut sévir à un moment donné, parce que si tu sanctionnes pas les gens, après, ça va se répéter mais fois 10 sur banaliser, le terrain, voilà. Dans les tribunes.
Non, je dis pas qu'il faut
c'est
banaliser.
Des entraîneurs, c'est des présidents de clubs, c'est des directeurs sportifs. Ouais. Il y en a, ils connaissent les arbitres en plus. Ils sont là, ils les insultent, corruption, truc. Après, c'est un autre débat, mais je suis d'accord que l'arbitrage français, il est catastrophique en ce moment. Mais je veux dire, tu peux
parce
pas...
Il
y a des trucs que tu peux pas tolérer.
C'est les émotions. Il y a des moments, pour moi, quand tu n'arrives pas à un point où tu insultes l'arbitre, même si là, oui, il est arrivé de façon
tête
très virulente.
C'est une dinguerie
de faire ça.
Alors qu'en plus, il vérifie la VAR et qu'il n'a pas eu de pénalty contre lui.
Mais oui, en plus de ça,
il a le carton rouge contre lui, mais tu vois, parce qu'il avait déjà râlé avant. Mais il a même pas attendu. Et c'est là, je suis d'accord aussi, il y a un problème avec le contexte.
Non,
je pense que le contexte,
non, mais généralement, oui, mais attends, il a pas sifflé le pénalty.
Pris...
L'arbitre n'a pas sifflé le pénalty. De base, il a pas sifflé le pénalty.
Il allait la VAR.
D'accord, eux, la VAR l'a appelé. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que quand la VAR t'appelle, c'est pour que tu changes ta décision. C'est très rare que tu pars et que tu reviennent et
plus,
tu dises finalement
la Ligue a mis les
exigences. Donc Paulo Fonseca part du principe où tu vas siffler pénalty quoi que tu vois.
Ouais, mais attends au moins
mais il a eu tort, et il s'est énervé.
Moi,
pour
de
rien,
toute façon n'importe quelle raison aurait été valable, mais je dis juste que n'aurait été valable pour ce qu'il a fait. Mais je dis juste que dans le sens où là moi je pense que 9 mois c'est très 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 sévère. En tout cas à nos chers auditeurs et auditrices, vous pouvez aussi nous dire ce que vous en pensez sur ça, hein. Vous pouvez aller commenter les posts de Mon Paris FM sur Instagram, et voilà. En tout cas, c'était tout pour cette soirée. On va se revoir la semaine prochaine en espérant des beaux matchs dans un premier temps.
Des clubs français encore en lice en Coupe d'Europe.
Des clubs français encore en lice en Coupe d'Europe, parce qu'on n'a même pas parlé de Lyon, mais on y reviendra la semaine prochaine de Lyon aussi, qui sont imposés face à Bucarest. Et on peut que vous souhaiter une très belle soirée, et on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Non mais, il faut faire un. Franchement, moi je pensais qu'ils allaient perdre, parce que il y a une tête dans du match contre les.
Arsenal, c'est le Real. C'est le Real Atlético.
Ah ouais.
Non, c'est pas fini parce que là, il a dit en fait. Le capitaine Odegaard l'a dit que son équipe allait cadre pour battre n'importe quelle équipe en ce moment.
Mais parce que il a une bonne défense aussi. Comme tu vois, c'est pas complètement équilibré. Ouais, non, mais je...